One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Salut à tous, c'est Raphaël Dacrouse pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Dance. Salut Dance.
Salut, ça va ou quoi ?
Ça va et toi ?
Très très bien.
Bienvenue à toi dans BPM.
Merci pour l'invite.
Avec plaisir. Dance parfois, Tug Dance, producteur originaire de Marseille, qui a collaboré avec Tin Burbigo, IAM, Soso Maness, qui est membre d'un duo de producteurs avec Amin Edge, qui ont exploré aussi bien le rap que la musique électronique de club. Et ces dernières années, vous avez participé à l'ascension de jeunes artistes aussi, comme Zamdan et Stony Stone. On va parler justement de ton parcours discographique tout seul et avec Amin Edge justement. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de ton parcours d'auditeur. C'est quoi tes premiers souvenirs liés à la musique, Dance ?
Premier souvenir, il va falloir que je remonte très très loin là, parce que j'ai un grand âge.
Tu as quel âge, si c'est pas indiscret ?
J'ai 40 dans le mois prochain.
T'es dans la force de l'âge.
Ouais, voilà. On va dire ça. Du coup, je crois que j'avais 7-8 ans, un truc comme ça, c'est Michael Jackson.
Ouais, si t'es un enfant des années 80, c'est Michael Jackson.
Voilà. En fait, je me rappelle très bien, genre mon image, elle est vraiment claire dans ma tête, c'est que j'avais acheté l'album de Michael Jackson, donc qui s'appelait Dangerous, mm-hmm. 91, je crois. Et voilà, je suis en 83, donc c'est ça, 8 ans.
Hein. Ouais, c'est ça.
Je l'avais payé 99 francs à la Fnac, je me rappelle parfaitement. Je sais pas, c'était un grand moment pour moi, tu vois. Peut-être j'avais 9 ans, peut-être j'avais acheté un peu après, je sais pas, mais bref, c'était
ouais, à la fin de l'enfance, quoi.
Exactement.
Ok. Et ouais. Quel souvenir tu gardes ? Est-ce que c'est un peu une Madeleine de Proust, ce disque ? Ça te rappelle des souvenirs particuliers ?
Ah oui, totalement. Ça me rappelle mon enfance. Tu connais, j'essayais de faire les pas de danse de Michael et tout. Tu vois, bon. À l'époque, on était tous matrixés pour Michael Jackson. De toute façon, les années 90, c'était lui et personne d'autre, en fait.
Bien sûr. C'est comme dans le sport, il y avait Michael Jordan.
Voilà, totalement. Moi, j'ai grandi avec Michael Jordan, Michael Jackson. C'était les deux. C'était les GOAT, quoi, tu vois. C'était obligatoire. Et après, il n'y a pas que lui forcément. Et après, j'ai découvert le rap et le R&B un peu plus tard.
C'est quoi tes premiers souvenirs liés au rap et au R&B ?
Les premiers, en vrai, je crois que c'est IAM. Hein. C'est IAM, Je danse le Mia. Mm-hmm. C'est comme ça parce que c'est 93, si je dis pas de bêtises.
Tout
aussi.
À fait, l'album Ombre et Lumière, c'est en 93.
Exactement, voilà. Ben, c'est cet album, en fait, Ombre et Lumière, que j'avais parce que j'avais ma sœur avait cet album. Parce que c'est grâce à ma sœur, en fait, tout ça. Toute cette culture-là, c'est elle qui avait tous les CD à la maison. Et moi, après, je lui volais quand elle était pas là et je les écoutais moi tout seul.
C'est l'avantage d'avoir un frère ou une sœur aînée.
Exactement.
Il y a cette transmission déjà.
Ah, pour ça, ça m'a servi énormément. Elle avait 4 ans de plus, tu vois, donc c'était parfait pour moi. Et. Ouais, voilà, donc il y avait Ombre et Lumière et j'écoutais ça, j'écoutais Attentat, j'écoutais Sachet Blanc, j'écoutais Je danse le Mia.
C'est quoi ton morceau préféré d'Ombre et Lumière ?
Attentat, je te jure, je l'aimais trop.
Ouais, il est drôle ce morceau.
Ah voilà, moi ça me faisait rire en fait, tu vois, j'étais un gamin, j'avais donc 10 ans, tu vois, donc moi 10 ans ça me fait des blagues, je rigole, et en plus il y a du rap sur des grosses instrus, des gros drums. Ouais, je kiffais. Je savais pas trop pourquoi je kiffais en termes de musique, en termes de paroles bien sûr, mais en termes de musique je savais pas trop c'est quoi le rap, tout ça, je sais pas, mais je kiffais. Et donc plus tard, j'ai compris que ouais, en vrai, c'est ça, c'est parce que c'est du rap, j'aime trop le rap en fait.
Et est-ce que tu as eu un moment conscient justement du truc de OK, le rap, c'est ça la musique que j'aime.
Oui.
C'est une des musiques qui me fait le plus frissonner quoi.
Ouais, bien sûr, parce
que après c'était quand et avec quoi ?
Ben en fait, 93 après il y a eu trop de trucs en fait en 93, il y a eu Alliance Ethnique aussi qui est arrivé.
Bien sûr.
94.
Je crois que c'est leur premier album, c'est en 95, c'est un Simple et Funky.
Ah, voilà, 95, ouais, bon voilà. En tout cas, de 93 à 95, 96, et toute cette vague de rap français, Alliance Ethnique, il y avait même Ménélique, Méloman.
En fait, les premiers gros tubes de rap français avec des influences un peu funky qui passaient à la radio et à la télévision.
Exactement,
quoi.
Exactement. Et moi, à la radio, il y avait que ça. Mm-hmm. Même les T5A, il y avait plein de trucs, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, j'aime trop le rap. Mm-hmm. Mais là, on parle du rap français, mais j'ai découvert aussi le rap Kenry. Avec
peut-être Warren G.
Warren G, Regulate, ouais. Direct.
Bah ouais.
Warren G, Nate Dogg déjà, qui m'a fait après comprendre qui était Dr. Dre et tout ça. Mm-hmm. Et puis même, il y avait Tupac aussi, All Eyes on Me.
Tout à fait.
Très, très, un album très important pour moi. C'est quoi, c'est 96 ça?
96, tout à fait.
Ouais, voilà, ouais. T'en es en train de se faire toutes les années là.
Ah, mais c'est des années cruciales justement dans la formation de tes goûts musicaux aussi, tu totalement. Vois, ça se fait à l'adolescence. Donc, bien sûr, c'est hyper important. Ah, ouais, est-ce que t'as grandi dans un environnement musical? Est-ce que tes parents étaient des mélomanes? Est-ce qu'il y avait des gens qui jouaient de la musique autour de toi ou c'était juste cette culture pop, tu vois, j'entends, tu vois, cette culture très large que t'absorbes quand t'es adolescent, quoi.
Non, personne.
Ouais.
Mon père faisait pas de musique, il faisait de l'informatique. Ouais. Ma mère travaillait dans une banque, rien à voir, tu vois.
Rien à voir.
Absolument rien. Même mes grands-parents qui m'ont un peu élevé, pareil, ils étaient pas dans la musique. Personne n'était vraiment passionné de musique, à part ma sœur.
Ouais, ouais.
Et ma sœur, c'est vrai que, bah, en fait, elle m'a grave aidé, hein, dans mon parcours. Ce truc, parce qu'elle traînait avec elle avait ses copines, ses potes et tout ça. Elle avait genre. Ouais, 17, 18 ans, tu connais, à cet âge-là, ça s'échange les CD et tout, parce qu'avant, c'était ça, tu vois. Et du coup, j'avais plein de CD chez moi, et donc c'est moi, mon amour de la musique. En fait, ouais, c'est dû à ma sœur, en vrai.
Et bah, big up à la sœur de Dance.
Direct, Muriel, big up.
On le disait, donc, t'es adolescent au milieu des années 90, tu te manges de plein fouet ces premiers tubes, ces premiers grands succès de rap, aussi bien français qu'américain. C'est aussi souvent des passions naissantes à l'adolescence qu'on partage aussi dans un entourage. Est-ce que t'avais un entourage de potes qui ont été piqués aussi par ça, et est-ce que ça vous a motivé à vouloir en être, c'est-à-dire de pas être seulement des simples auditeurs?
Alors oui, mais ça c'est arrivé beaucoup plus tard, parce que ma passion pour la musique, entre ma passion pour la musique et le fait que je commence à en faire, il s'est passé au moins 10 ans, 15 ans, ou je sais pas exactement, mais bref, ça a commencé très tôt et moi j'ai commencé un peu tard en vrai, tu vois, donc à faire du son. Enfin, pour moi, je trouvais que c'était tard. Et donc d'abord, ouais, j'avais ce truc-là avec mes potes où on était vraiment passionnés de musique, alors qu'avant, c'était pas aussi facile que maintenant d'être passionné de musique. Maintenant, tu vas sur Spotify, tout est gratuit, tu tapes n'importe quoi, tu trouves, t'as même des propositions par rapport à l'algorithme.
Bien sûr,
ça, là,
ouais.
Ça te propose des artistes et tout, alors que nous, il fallait aller les chercher.
C'est un secret d'initié d'être un amateur de rap.
Mais exactement. 90, et moi, tous mes potes, je me suis fait pote avec eux. Par rapport à la musique. Bon, pas que, mais beaucoup par rapport à la musique. Parce qu'avant, être passionné de musique, on était genre une secte limite, tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, ils s'en foutaient. Pas qu'ils s'en foutaient, mais c'était pas autant important que nous. Nous, c'était vraiment, vraiment très assidu. Tout ce qui sortait, on avait. Et moi, la chance que j'avais aussi, c'est que mon père, il avait un tabac presse, tu vois. Qui dit presse, dit magazine.
Mais ouais.
Et donc, j'avais tous les magazines gratuits. Et ça m'a énormément aidé.
Tu m'étonnes.
Tous les affiches, The Source,
Groove, Groove,
j'ai des Groove de 96 avec Biggie et R. Kelly en couverture, bref, voilà. Truc radical aussi, bien sûr. Même Rap Mag qui arrive un peu après.
Tout à fait.
L'affiche, je sais pas si j'ai dit, bref, voilà. Donc, moi, j'ai fait ma culture avec ça, tu vois. Et je sais plus, j'ai perdu le fil.
Non, t'inquiète, je te demandais si voilà, t'étais aussi dans un entourage, tu vois, qui fait qu'il y avait une émulation, ouais. Tu vois, de se pousser dans l'érudition musicale et peut-être même aussi dans l'envie de faire de la musique, quoi.
Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, j'étais tellement passionné que après. Tu veux que je te dise comment j'ai commencé à faire de la musique?
Je veux que tu nous racontes tout aujourd'hui. Comment tu t'es mis au son?
Ça va être très long, ça va faire deux heures sur ce podcast.
Voilà, c'est quoi, voilà, comment, ça a été quoi la bascule pour toi d'être un auditeur assidu, passionné, au fait de vouloir faire du son, quoi?
Bah, en fait, donc on en a parlé tout à l'heure de mon pote Amin Edge. Lui qui était aussi passionné de
donc vous connaissez depuis la jeunesse, en fait,
ouais,
tous les deux. Okay.
À 15 ans, je crois, on s'est rencontrés.
Okay.
Et après, on ne s'est plus jamais lâché.
Et donc, vous connaissez, donc, encore une fois, jeunesse à Marseille.
Ouais, à Marseille. Il habite à 3 minutes de chez moi.
Ok.
Bah, il habitait. À 3
c'est dans quel coin de Marseille pour...
Non, 13e. 13e, 14e.
Donc, alors que de mémoire, parce que je ne suis pas un spécialiste, c'est l'est de Marseille, c'est ça?
Ouais, plutôt au nord. Hein. Nord-est.
Nord-est, ouais. C'est ça, ok, d'accord. Ouais, nord-est. Ok, que j'arrive à situer, tu vois, géographiquement, ouais. Et que ça parlera peut-être à ceux qui connaissent un peu mieux, justement.
Ouais, bah là, après, sinon, le plus connu, ouais, La Rose, en vrai. La Rose, c'est un quartier hyper connu.
Yes. Et du coup, de fait que tous les deux, vous étiez passionnés. Que vous aviez envie d'en être aussi. Est-ce qu'autour de vous, il y avait... On parle de la scène marseillaise de la fin des années 90. Est-ce qu'il y avait déjà des connexions pour faciliter l'accès, comme tu disais, c'est un secret d'initié aussi, le rap. L'accès à du matériel, à des studios, des phases B, enfin bref. Comment ça se fait, en fait, ce truc, justement, de votre passion naissante dans l'environnement dans lequel vous êtes à pouvoir faire des choses, quoi?
Ben, en vrai, ouais, tout part d'Amine. Hein. C'est lui, déjà, c'était un geek, déjà. Moi, j'étais pas un geek, je vais pas te mentir. Moi, j'étais un mec qui faisait que sortir. J'avais mon scooter, j'allais acheter des habits, rencontrer des meufs. Bref, ouais, j'étais dans ce truc-là, tu vois. Mais toujours passionné de musique. Par contre, lui, il restait souvent à la maison. Il était dans son garage et il avait déjà un ordinateur. Moi, j'avais même pas d'ordinateur, pour te dire comment c'est il y a longtemps. Et donc, il avait l'ordinateur, il avait déjà même les logiciels, il avait une platine vinyle chez lui, parce qu'il mixait déjà. Donc, il avait un peu de matos, tu vois, chez lui. Et moi, j'allais chez lui tout le temps. J'allais dans son garage, c'est là qu'on traînait, tu vois. Genre, tous les soirs, je sortais de l'école, machin, j'allais chez lui. On allait se boire des bières dans son garage, et on écoutait du son, bref, voilà. Et donc, c'est lui qui m'a dit, c'est pas si difficile de nos jours de faire de la musique. Il me l'a prouvé, en tout cas, parce que j'écoutais ses sons qu'il commençait à faire, qui n'étaient pas ouf au début, mais je voyais la progression et tout. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai, en vrai, il y a peut-être moyen que je fasse quelque chose. Et après, il m'a dit, tu devrais t'y mettre. Vraiment, là, t'es trop passionné, tu connais toute la musique de tout le monde, tu connais tout sur chaque personne, toute l'histoire, toute la vie et tout, alors qu'avant, c'était compliqué sans Internet, et t'en fais pas de la musique. J'ai dit, oui, mais moi, j'ai jamais fait de musique, genre... J'ai pas fait de solfège, j'étais nul en flûte à l'école, je sais pas jouer du piano, je sais pas jouer de guitare, je sais rien faire. Ce truc que je sais, c'est que je pense avoir un peu de goût, parce que j'aimais bien les fringues, les trucs et tout, et je pense avoir écouter de la bonne musique aussi. C'était peut-être mes deux seuls points forts, tu vois. Il m'a dit, mais rien qu'avec ces deux trucs-là, je pense que tu peux faire de la bonne musique. Alors du coup, on est allé acheter un ordinateur, parce qu'il m'a convaincu, j'ai dit oui. On est allé acheter un ordinateur, je l'ai ramené chez moi. Il m'a mis Reason.
Ok.
Et il m'a dit, tiens, voilà, maintenant démarre-toi. Bon, il m'a montré deux, trois trucs quand même. Et après, il m'a dit, vas-y, mets-toi-y. Et je m'y suis mis.
À tes tout débuts de producteur, tu voulais que tes prods sonnent comme qui ou comme quoi ou comme quel style de rap, comme, voilà, je sais pas.
Dr. Dre.
OK.
Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre direction, c'est Dr. Dre. Après, un petit peu plus tard, peut-être Jay Dilla. Mm-hmm. Parce que c'était vraiment... Moi, comment je me voyais, je voulais être un... Mon style de musique, en tout cas, que je voulais faire, c'était entre Dr. Dre et Jay Dilla. Mm-hmm. Je voulais mélanger un peu les deux et ramener ma propre sauce, tu vois. Bon, il s'est trouvé que c'est pas du tout passé comme ça, parce que c'était très dur et que Reason, c'était compliqué, sa mère, laisse tomber. Et en plus, j'avais pas trop de tutos, ouais. Tu vois. On avait des CD-ROM de tutos qu'on avait volés, je sais pas quoi. Bref, bon, pas volés, téléchargés, ouais, je sais plus.
Il y a prescription maintenant si ça a été volé.
Ouais, mais c'est il y a plus de 10 ans, de toute façon. Donc, du coup, c'est bon. Ouais, donc il y avait un mec qui faisait genre de masterclass et c'était des trucs, ça coûtait cher en plus à l'époque, tu vois, d'avoir un CD comme ça.
Ouais.
Il expliquait les EQ, les compressions, les machins, tu vois. Et ça m'a aidé un peu ce CD parce qu'il n'y avait pas YouTube. Enfin, oui, il y avait YouTube, mais il n'y avait pas encore tous les tutos. Ouais, voilà. Du coup, j'ai mis énormément de temps à devenir chaud, quoi.
Et du coup, pendant ce temps-là, tu vivais, tu faisais des études, tu travaillais comme...
Les études, ça a été chaotique.
C'était chaotique, d'accord.
Chaotique, je me suis fait renvoyer tous mes lycées. J'en ai fait 4.
Ah ouais.
Les 4, je me suis fait renvoyer.
Bravo.
Ouais. Des fois au bout de 6 mois, des fois au bout d'un mois, des fois au bout de la fin de l'année, ouais. J'y allais pas. Bref, ça a été chaotique. Pourtant, j'étais pas mauvais à l'école. Hein. Franchement, j'étais pas mauvais. Mais à partir de 3e, seconde, après, j'avais d'autres trucs dans ma tête. J'avais la musique, les meufs, mon scooter. C'est tout ce qui m'intéressait.
Belle vie d'adolescent, ça.
Ouais, voilà, c'était l'adolescent, les bières, les trucs, voilà. Un peu de fumette, machin, bref.
Alors, t'as dit que t'as mis un peu de temps à vraiment trouver quelque chose, tu vois, dans ta manière de produire. Mm-hmm. Quand est-ce que ça a été la bascule du moment où tu tâtonnais un peu sur ton logiciel, sur Reason,
ouais.
Au moment où tu commençais peut-être à être satisfait, à faire écouter, à avoir des retours, tu vois, voilà. Quand est-ce que ça s'est passé?
Bah déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça a été très long. Mm-hmm. Il s'est passé au moins, je sais pas moi, 2, 3, 4 ans avant que... En plus, j'étais pas très assidu. Donc, je faisais des prods, mais une fois par semaine, mm-hmm. une fois tous les 3 jours, j'en faisais une, tu vois, c'était pas... Et puis, je voyais même pas de carrière là-dedans, tu vois, mm-hmm. même si je kiffais ça quand même. Et petit à petit, quand j'ai commencé à devenir un peu bon, c'est là que je me suis pris au jeu et que je commençais à faire écouter mes prods. Et la bascule, du coup, ça a été SAT d'artificier.
Mm-hmm. Donc SAT, membre de la Funky Family.
Membre de la Funky Family. Je t'ai dit tout à l'heure que je travaillais dans un tabac.
Ouais.
C'est tabac, cigarette, tout ça. Et d'un coup, il y a SAT qui vient dans mon tabac. Et moi, je pète les plans, tu vois. J'étais fan de la FF complet, tu vois. Et je vois SAT qui arrive, il est là avec sa grosse voix, dans mon paquet de Marlboro. Non, c'est pas possible, c'est lui et tout. Je vais voir mon père, parce que moi, je travaille avec mon père. Je dis, mon père, c'est SAT de la FF. Il me dit, qui, c'est quoi? On ne connaissait rien, lui. Mais bref, moi, j'étais fou de le voir comme ça. Et on a commencé à discuter un peu. Je lui disais que je faisais un peu des sons, mais que j'avais pas encore vraiment le niveau, mais j'aimerais bien qu'il écoute, tout ça, sans le faire chier non plus. Mais il a été tellement bienveillant, tellement gentil avec moi. Et bien, un jour, il m'a donné un rendez-vous. On s'est calé dans ma voiture. Et je lui ai fait écouter mes sons. Et c'était nul. Mais il m'a motivé. Il m'a dit, il y a quand même des trucs bien dans tes prods et tout, mais il faut que tu bosses encore. Il y a ça qui est bien, il y a ça qui est moins bien. Là, il m'a... Parce que ça, il faut savoir aussi qu'il fait un peu des prods des fois.
Tout à fait. Ouais. De mémoire, je me demande si sur son déjà deuxième album, Second Souffle, il n'y avait pas déjà des trucs sur lesquels il produisait.
C'est possible.
qui sort vers 2007-2008.
Ouais, c'est dans ces années-là, ouais. Bref, du coup, voilà, il m'a motivé. Et après, je me suis dit, bon, vas-y, si Sat, il me dit que les prods sont à peu près bien et que je peux m'améliorer, il doit avoir raison, c'est Sat. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, il a bossé avec Pone, il a bossé avec Laura, il a bossé avec Akhenaton.
Bien
bon,
sûr,
voilà, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, ça a été un élément déclencheur. Après, si tu veux qu'on parle de ma première prod placée...
Bah allons-y, justement.
Eh bien, ma première prod placée... Après, c'était sur Marseille, hein, moi, tu sais. J'ai commencé à essayer de me faire mon trou à Marseille. J'ai commencé par Napo, qui s'appelle maintenant Relo.
Relo. Et grande salutation à lui.
Voilà, j'avais vu un freestyle de lui sur Skyrock, je crois. Je ne sais plus pourquoi il était à Skyrock, bref. Et j'avais pété un câble. Et en fait, j'avais un pote à moi qui le connaissait. Et je sais pas, c'était. On avait fait. J'ai trouvé un moyen de qu'il vienne chez moi. Il est venu chez moi, il a commencé à rapper sur mes prods. Et...
Ouais, parce que lui en plus, il est aussi du 13e ou du 14e.
Ouais, bien sûr, ça, il habite à côté de chez moi.
Ouais, c'est ça.
Il est de la Rose, comme moi, tu vois. C'est pour ça qu'on avait des potes en commun, tu vois. D'ailleurs, Sofiane, big up à Sofiane. Et ouais, voilà. Du coup, ça a été lui un des premiers. Après, si tu veux qu'on parle peut-être des mecs plus.
Moi, le premier crédit que je vois vraiment, dis-moi si je me trompe, c'est Vincenzo.
Vincenzo, ouais. Ouais, bien sûr. Ben ça, voilà, ça arrive un peu après, parce que après, je ne sais plus par quel moyen, mais j'ai commencé à travailler avec le label Street Skills.
Ok.
Le label de Soprano. Tout donc ça fait. Aussi, ça a été un élément déclencheur. Parce qu'en plus, ça, c'était la période où je commençais à devenir bon, tu vois. Donc je commençais à travailler avec Soprano qui me dit de venir. Là-bas, il y avait Carpe Diem, donc REDK, tout ça, qui était signé là-bas chez eux. On parle de 2009,
fin des années 2000, début des années 2010.
Fin des années 2000, ouais. Et donc Vincenzo aussi, forcément, qui était là-bas. Il y avait les Révolutions Urbaines, il y avait tous ces mecs qui étaient signés chez Street Skills. Mino aussi, je ne sais pas si tu te rappelles.
Bien sûr, Mino, bien sûr.
Voilà. Et j'ai fait la compil Street Skills, faite par, hostée par DJ Medj.
Tout à fait.
Et là, j'ai eu genre 4 ou 5 prods sur cette compile. Donc là, c'est là que ça a commencé vraiment pour moi. Tu vois, j'ai dit putain, parce que moi, Striskill, je connaissais déjà, tu vois. Même il y avait Soprano et tout, tu vois.
Bien sûr. Oui, Striskill, ça a déjà été créé, je pense, vers 2002, 2004, par là. Je crois que ça faisait un moment que ça existait. Hein. Parce que les compilations aux mains pleines de ciment, je crois que ça sort déjà chez Striskill et on est vers ces eaux-là, tu vois.
Ouais,
ça devait déjà être très implanté sur Marseille.
Ouais, à Marseille, ouais. Striskill direct, on savait très bien ce que c'était. Et pour moi, qui était beatmaker et qui voulait travailler avec des rappeurs marseillais pour le moment, parce que je n'allais pas sauter les étapes, tu vois. Pour moi, il fallait qu'on se commence à tout niquer à Marseille et après, peut-être voir pour Paris et pourquoi pas les States après, bref. Et donc j'étais dans mon cheminement et ça se passait super bien. Voilà, ça c'était quoi 2010 ouais.
On demande pas des frères c'est à moi ou des aveugles de se regarder face à face. Ne joue pas les durs à cuire, si les poulets de cuisine tu passes à table. Si le game vend la guerre du rap, moi j'offre le pack de blessés. La mort dans l'âme, je dédicace ton acte d'essai.
Et est-ce que du coup tes prods sonnaient comme un mix entre Dr. Dre et Jay Dilla à ce moment là?
Très bonne question. Franchement ouais. DJ Khalil aussi un peu.
Ouais, en fait, je voulais t'amener à ça en fait, à parler de DJ Khalil.
Mais parce que en vrai, si tu réfléchis bien, le mix de Dr. Dre et Jay Dilla, c'est DJ Khalil. Hein. Franchement, à part que peut-être lui, il a des trucs de, il a plus de folie, il a beaucoup de synthé sur Reason, ouais. D'ailleurs, qui est sur Reason. Mais il a une manière de faire groover les drums et tout qui me faisait beaucoup penser à Jay Dilla, tu vois.
De ouf, parce qu'il y a du swing, il y a du groove dans dans ses prods.
Exactement.
Ces trucs un peu décalés, sans quantisation.
Ouais, 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 ouais.
Là où Dre, c'était très droit.
Exact.
Bam, tu vois, exact. Toi, c'était
après, attends, Dre, quand même, il y a du
pas
groove
toujours,
aussi. Hein,
pas toujours, oui.
Mais moins que Jay Dilla, on
voilà,
est d'accord.
Exactement.
On est d'accord.
Et effectivement, quand on écoute tes premiers placements, on sent ce truc californien de la fin des années 2000.
Et ouais.
Avec Khalil en grosse aspiration.
Ah oui, oui, totalement. Totalement. Elle est assumée. J'ai pas besoin de dire non, c'est pas vrai. Alors que t'as juste à écouter les prods. Si tu t'y connais en DJ Khalil, tu vas bien comprendre que j'essayais d'aller dans ce créneau-là. Et je pense que c'était pas encore la bonne période pour moi pour arriver à trouver ma patte. J'étais encore en train de me chercher, en fait. Tu vois. J'arrivais à reproduire ce que j'avais envie de faire, mais pas à 100%, en fait. Tu vois, encore. Je me laissais un peu guider par le logiciel, des fois. Alors que moi, maintenant, le logiciel, c'est moi qui le gère, tu vois. Alors qu'avant, c'est lui qui me gérait. Genre, des fois, il me faisait des trucs, coup de chance. Ah ouais, putain, ça, c'est bien, ça. Alors que moi, maintenant, non. Maintenant, je fais ce que je veux. J'ai l'idée en tête, je fais ce que je veux et j'arrive à mon résultat que j'avais en tête avant même d'aller sur Ableton, tu vois. Parce que je suis sur Ableton maintenant, je suis plus sur Reason.
C'était quoi ta prod préférée de Khalil, qui a pu être un peu influente pour toi, justement, sur...
Ouh là 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 là, frère, toutes les prods qu'il a fait pour Bishop Lamont, déjà, ça, c'était incroyable. Pour Kobe aussi, c'était incroyable. Ma prod préférée, il y en a une sur l'album de G-Unit aussi. Après, j'ai du mal avec les titres. Enfin, d'habitude, je me rappelle bien, mais même il en a fait pour Clips aussi. Il en a
tout
fait
à
pour
fait,
Kanye West.
Sur l'album Till the Casket Drops de Clips.
Exactement,
ouais,
ça aussi, incroyable. Mais c'était un peu avant, moi, que j'aimais bien. Ouais, tout ce qu'il a fait pour Bishop Lamont et Kobe. I like the bitches that make you bounce.
I love my money in large amounts.
De ses premiers placements, est-ce que t'arrives à te projeter et à te dire « Ok, je peux commencer vraiment à vivre de ma musique, je peux commencer à développer des choses ?» Où on est dans un écosystème, parce que là, on est entre la fin des années 2000 et début des années 2010, ouais. Où c'est compliqué encore économiquement pour le rap, etc. Une fois que tu commences à faire tes premiers trucs, tu te dis juste « Bah, ça reste de la passion » ou tu vois l'éventualité d'en faire quelque chose ?
Non. Je vois absolument rien. Ouais. L'argent ne rentre pas. Je me fais 200-300 euros tous les 6 mois. Enfin, bref, bon, c'est un chiffre approximatif, mais il y avait vraiment pas de quoi en vivre, tu vois. Donc j'avais toujours ces rêves. J'avais ma tête pleine de rêves, évidemment. Je voyais des Ryan Leslie, parce qu'on parle de cette période-là. Mm-hmm. Je voyais des Ryan Leslie, des Timbaland, des machins, des mecs qui vendaient des prods de 100 000 $. Moi, je dis comment j'arrive même pas à vendre une prod de 20 €. C'est n'importe quoi, tu vois. J'arriverai jamais, je crois. Et ça a été vraiment, vraiment petit à petit. Après, ce qui a été un autre élément déclencheur après Street Skills, c'est que j'ai été approché par Therapy. Ouais. Ça, c'est vers 2011, je crois.
OK.
Ouais. D'ailleurs, j'ai checké tout à l'heure dans mes mails pour savoir les dates. J'ai un peu révisé avant le podcast.
C'est bien, ça te rafraîchir la mémoire, c'est
ouais,
pas mal.
Ouais, de ouf.
Ah, donc, t'as Therapy qui t'a contacté ou c'est toi qui l'as contacté ? Comment ça s'est fait, en fait ?
Alors, ah oui, c'était Andy Man, big up à lui. C'est lui qui connaissait... il connaissait Mehdi, Therapy. Pourquoi il connaissait, je sais pas. Et moi, Andy Man, c'était un DJ de Marseille, le frère d'un pote à moi, hein, bref. Et je le connaissais aussi et il m'a fait la passe D.
OK.
Il m'a fait la passe D aussi parce qu'il avait écouté mes prods et qu'il savait que peut-être ça allait pouvoir intéresser Mehdi, tu vois. Et Therapy, ça arrive à ses oreilles et il a kiffé les prods et il m'a envoyé un message, je sais plus comment, il m'a appelé, je sais plus, bref. Et j'ai fait le rendez-vous, il m'a pris le train, je suis allé à Paris, je suis allé dans son studio, hyper impressionnant, tu vois. Moi, celui-là, je commençais un peu à travailler pour des artistes marseillais, c'était bien, j'étais très content, mais là, carrément, on est arrivé dans des sphères de Booba, tout ça, tu vois. Caris, pas encore, on y viendra après si tu veux, mais... Mais voilà, c'était le producteur Booba à l'époque, tu vois, il travaillait sur enfin, il avait fait plein de sons de Paradis, depuis, je crois. Futur, non.
Sur l'album Lunatic, déjà.
Lunatic.
Même déjà sur 09, il avait des prods.
Ah ben voilà.
Donc 09-2008, Lunatic 2010, ouais. Futur 2012. Donc effectivement, on est sur ces années-là.
C'est ça, ouais. Ces années-là. Donc pour moi, Therapy, limite, je tremble avant d'y aller, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Et en fait, le langage de la musique, quoi. Tu vois, genre, je lui fais écouter mes prods, il kiffe, il me fait écouter ses prods. Bon, forcément, je kiffe. Ça commence à me paraître collab, les trucs et tout. Après, il a kiffé, il m'a dit « Vas-y, bah, on va faire un contrat. » Et moi, j'étais un peu frileux. De signer. Je savais pas trop. J'avais entendu tellement d'histoires. Tu connais, moi, les magazines, les trucs. J'ai tout feuilleté, j'avais tout. J'étais un peu frileux. Du coup, il m'a dit « Vas-y, je te fais un contrat d'un an et on voit comment ça se passe dans l'avenir. » J'ai dit « Ok, ça me va. Un an, c'est très bien, tu vois. » J'ai signé un an. Ça s'est bien passé. On a commencé à travailler avec Booba, tout ça. J'ai envoyé des prods, Booba qui me prenait mes prods et tout, c'était bien, c'était cool. Et après, il me disait, il y a un gars là qui est en train d'arriver et tout, moi je sais pas qui c'était. Il y a un gars qui est en train d'arriver, il s'appelle Caris et tout, il est trop chaud et tout, il faut que tu bosses pour lui et tout. Je dis, bah vas-y, moi je suis là pour ça, de toute façon, c'est toi mon éditeur maintenant, donc tu es censé me donner du taf, vas-y, je vais bosser pour Caris, tu vois. Mais c'était pas le Caris de maintenant, quoi, tu vois.
Donc on parle de ça avant la mixtape Z2Hero peut-être quelque chose,
c'est ça. Ou alors peut-être qu'elle était sortie que je connaissais pas après. Je sais pas.
Z2Hero ça sort en 2012.
Et ouais, non mais moi c'est 2011.
Ouais, donc c'était déjà un petit peu avant. Ouais.
C'est ça, tu vois. Il était là et tu vois, il gravitait et tout, mais c'était sûrement la période où avant de sortir Z2Hero, voilà, je pense que c'était ça, tu vois.
OK.
Donc il était pas encore connu, tu vois. Et bon bref, voilà, c'était pour te dire la période Thérapie, mais ça a duré qu'un an.
Et du coup, t'as des productions de cette époque-là où on t'est signé qui sortent justement de vos collaborations ?
Et justement non.
Ouais,
justement,
c'est ça.
Non, là par contre, il n'y a rien qui est sorti. Alors qu'il y avait plein de. Ouais, je parlais avec Booba, tu vois, ça me disait refais-moi le refrain comme ça, tac, rajoute-moi un truc et tout. Moi, on faisait les modifs et tout. Mais après, de fil en aiguille, moi, en fait, il y a eu un autre élément déclencheur, parce qu'on est sur un running mot, c'est que je me suis mis à faire de la house.
Eh oui,
à ce moment-là, en fait.
On en parle avec toi, bien sûr.
C'est pour ça que là, cette période-là, on dirait que c'est bizarre, mais en fait, non, c'est clair, parce que je me suis mis à faire de la house avec donc, ce Amine, que je parlais tout à l'heure,
bien sûr.
Qui lui faisait de la house depuis un moment. Et en fait, j'ai vu que j'ai fait un morceau et on l'a mis sur SoundCloud.
C'était quoi ce morceau ?
Le morceau s'appelle Going to Heaven with the Goody Goodies. Le titre le plus long du monde. Mais c'est des paroles de Notorious B.I.G. On l'a mis sur SoundCloud. Et le son, il a explosé. Pendant que j'étais avec Thérapie, tu vois. Parce que moi, je fais du son. Moi, je m'amuse, en fait. Quand je fais du son, je m'en fous des...
Des étiquettes.
Ouais, voilà, exactement. J'ai mon style que j'aime vraiment et que j'aimerais développer ou quoi. Mais je peux m'arrêter, faire de la techno, faire du reggaeton. Ou faire de... Je m'en fous, en fait. C'est comme un jeu vidéo de faire de la musique pour moi, tu vois. Sur Ableton, je suis là, je sais pas quoi faire, je me mets sur Ableton. Et c'est addictif, en fait, tu vois. Bref. Et donc, je voyais Amine qui était faisait de l'house, mais il galérait un petit peu, tu vois. Il n'arrivait pas vraiment à se faire un nom et tout. Je dis, bon, tu sais quoi, t'inquiète, je vais te faire un son house. Tu vas voir.
T'as pris ça comme un jeu.
Mais pratique, mais exactement, tu vois. Bon, j'avais rien en arrière-pensée, tu vois, pas du tout, tu vois. Mais il s'est trouvé que le track que je lui ai envoyé, il a pété les plombs. Il me dit, putain, il est incroyable ton track et tout. Vas-y, on va faire une collab. On va faire... Lui s'appelait Aminage et moi je m'appelais Dance, tu vois. Donc, vas-y, on va faire Aminage et Dance et on le met comme ça sur SoundCloud et on verra bien, tu vois. Et en fait, après, il y a. Tu t'y connais un petit peu en house, deep house, tout ça. Il y a un gros DJ qui s'appelle Solomon.
Oui.
Voilà.
Ok.
Solomon écoute ce morceau. Pourquoi, je sais plus pourquoi, peut-être Amine avait son contact, son mail, je sais plus trop, bref. Et Solomon écoute le morceau et il le signe sur son label. Et voilà, explosion. Numéro un partout, tous les gros DJ du monde qui le jouent. Moi, je vois des vidéos YouTube avec des mecs au Mexique qui dansent sur mon son. Genre, je suis là, je pète les plombs. Moi, je suis beatmaker, street skills, carpe diem, machin et tout. Je vois mon son house avec des gens, des Mexicains qui dansent sur mon track. Genre, au début de YouTube, des gens en maillot, machin, bref, c'était... limite, je pleure, quoi, tu vois. Genre, c'était un truc de fou. Tu vois, vraiment, vraiment. Et donc, on parle de la période thérapie. Hein. Et là, je me suis dit, mais putain, mais je m'en fous du rap, en fait. Je vais faire ça, moi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bien sûr.
Je vois des meufs en string danser sur mon son au Mexique. Je me suis dit, non, mais c'est bon, en fait. Je vais continuer. Je l'avais fait en 10 minutes, le son. Tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais en faire d'autres. On verra bien. J'en ai fait d'autres, 1, 2, 3, 4, tac. Et ça montait dans les charts. On sortait sur tous les meilleurs labels. Parce que dans la house, c'est beaucoup les labels et tout qui sont importants.
Tout à fait.
Et on a pété, quoi. On a pété, on a commencé à avoir des dates partout dans le monde.
Parce que ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on est vraiment en plus à un moment charnière de la fin des années 2000, début des années 2010,
oui.
Où il y a cette musique électronique de club qui explose au niveau pop, c'est-à-dire où il y a les gros stars, les Guetta, etc., qui arrivent à faire des collabs internationales, mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de cercle vertueux où les DJ deviennent vraiment des stars, quoi. C'est-à-dire qu'on les book, on les fait venir partout dans le monde pour qu'ils jouent, pour qu'ils mixent,
oui.
Aussi bien leur son que d'autres trucs, donc vous rentrez dans cet écosystème-là, quoi, avec Amine.
Totalement, ouais. Totalement. Après, c'est pas le même style de musique, tu vois. Nous, c'est quand
bien
même
sûr,
ça,
oui, bien sûr.
Ça reste underground, tu vois.
Je suis d'accord avec toi, voilà. C'est pas la même échelle, mais...
Non, c'est pas la même échelle. J'ai pas les cachets de David Guetta.
Mais bien sûr, ça, tu vois. C'est pas la même échelle, mais quand même, je pense qu'il y avait une espèce de courroie de transmission
ah, oui.
À un moment donné sur le DJ qui devient vraiment une figure pop centrale, quoi.
Totalement, ouais. Totalement. Il y a eu ce truc-là où maintenant, les gens, quand ils vont à un club, ils regardent le DJ.
Mm.
Avant, il n'y avait pas ça, tu vois. Avant, t'allais dans un club, tu dansais avec tes potes, tu regardais tes potes. Là, maintenant, le DJ, ça devient la star, tu vois. Les... Ouais. Ils sont bookés par rapport à un son qu'ils ont fait. Ça devient des artistes, en fait. Tu vois, comme tu vas dans un concert, voir pendant en parlait tout à l'heure, et ben là tu viens voir Aminage et Dance parce qu'ils ont fait un morceau que t'adores et tu viens les voir en train de mixer ce morceau-là que t'adores, tu vois. C'est pas exactement pareil parce que nous on chante pas, on rappe pas, on a pas de micro, rien, mais il y a un truc que les gens ils kiffent, tu vois.
Donc t'as eu Street Skills comme je le disais, t'as eu Vincenzo, il y a l'album La Matrice qui sort en 2012, donc ou sur lequel il y a des morceaux à temps, hein, j'entends. Hein.
Mm-hmm.
Tu laisses complètement du coup le rap de côté à un moment donné et tu étais complètement à fond justement dans la house.
Ouais.
Ok.
Ouais ouais. Et je vais pas te mentir que j'en avais marre du rap, vraiment. Tout ce milieu et tout ça, les rappeurs, leur courir après. Moi, je dis quand même, mes prods sont bien et tout, mais j'arrive pas à les placer et tout. Même si bon, il y avait thérapie, ça se passait bien et tout, mais c'était limite trop tard déjà.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? J'en avais déjà marre en fait, tu vois. Et ce truc de house, ça m'a ramené tellement une fraîcheur dans ma vie, même si c'était pas ma musique de prédilection. Après, on va pas se mentir, il y a l'oseille aussi, tu vois.
Bien sûr.
Tu vois, moi, je faisais pas d'oseille, j'étais en galère, tu vois. Et là, je voyais quand on fait des dates, on prend des 500 euros, 800 euros. Bon, on se partageait et tout. Mais rien que ça, j'avais du cash dans ma poche. J'avais jamais eu ça, tu vois, avant. Bon, je viens pas de la pauvreté non plus, tu vois, mais quand même, tu vois. Et donc, il y a eu l'argent, les dates, même voyager. J'avais pratiquement jamais voyagé de ma vie. Et là, ça me demande des dates rien qu'en Belgique, en Italie, à Ibiza, à Londres, surtout à Londres, à Manchester. J'apprends à parler anglais, tu vois. Et je suis avec mon meilleur ami. C'est ça aussi, tu vois.
Ah ouais,
je suis avec mon meilleur ami.
Vous partagez ça, cette expérience ensemble. Quoi.
Celui que dans ma Fiat Punto, où j'écoutais l'album de Joe et de Tyrese, tu vois. Mm-hmm. On écoutait du R&B dans la voiture. Et avec lui, on va voyager dans le monde entier. Première date, je me rappelle encore qu'on va dans un hôtel. L'hôtel, donc, il est payé. Ils nous ont pris une chambre pour deux. Mais on s'en foutait parce que rien qu'on avait une chambre pour deux, c'était incroyable. Je suis allé sur le lit, j'ai sauté sur le lit. J'avais 28 ans.
Bah oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
Un gamin. Et c'était un truc de fou. Je suis avec mon meilleur ami, ça y est, on a percé et tout. Oh, putain, on fait de l'oseille. Bon, on faisait pas encore des millions, mais. Enfin, j'ai jamais fait de millions, mais bref. Mais c'était incroyable. C'était incroyable. Et c'est ce qui m'a fait tomber amoureux de ce mode de vie, en fait. Pas de la musique, parce que j'ai jamais vraiment, vraiment aimé la house. Je vais pas te mentir, je dis vraiment la vérité. Ça a jamais été la musique qui me transporte, tu vois. Dans ma voiture, j'ai toujours écouté du rap, du R&B. T'as vu d'où je viens, maintenant, t'as compris. Mais il y avait ce truc-là où je savais la faire, la house, et il y avait le mode de vie. J'étais avec mon meilleur ami en voyage, les meufs, l'alcool, le truc, bref. Et voilà. Et ça a duré 10 ans.
Et pour autant, je le disais, à partir de 2012, on commence à voir ton nom de manière plus fréquente sur des disques. Moi, c'est d'ailleurs en 2012 que je vraiment découvre ton nom sur l'EP Inception de Dean Burbigo.
C'est ce que j'allais dire, on a oublié de parler de Dean Burbigo, alors voilà. C'est très important.
Et justement, et c'est pour ça que je voulais revenir au rap, même si c'est hyper important qu'on parle de ton parcours dans la house. C'est évident.
Ouais, mais on va y aller tranquille. Enfin, le truc de la house, on en parle un petit peu pour que tu saches, mais c'est,
voilà,
c'est
ça.
C'est mieux de rester focus sur le rap.
Exactement, non, mais c'est hyper important que tu en parles parce que je pense que il y a d'autres producteurs qui ont été à un moment dans le rap qui ont aussi été dans ce circuit du DJing, vraiment club, etc. Donc je pense qu'à un moment donné, ça a été important. Mais comment tu te retrouves finalement alors que tu es dans ce mode de vie là, tu vois, de fête et d'expérience avec ton meilleur pote, comment tu te retrouves justement à reproduire finalement sur tes disques de rap français? Je pense notamment à Inception de Dean Burbigo, je parlais de l'album de Vincenzo aussi. Voilà, on est en 2012.
Ouais, mais justement.
Était placé.
2012, je faisais encore du rap.
Ouais.
2011, 2012, tu vois. Ah, donc, ouais. Pour moi, c'était encore logique de travailler avec Dean Burbigo. Tu me posais la question comment je l'avais rencontré.
Ouais, en fait, comment ça se passe pour la rencontre avec Dean et comment vous travaillez ensemble, quoi.
Eh ben, avec Dean, on avait un pote en commun, tout simplement. J'avais fait une formation de... Pas d'ingé son, mais... Ouais, d'ingé son, ouais. Un truc qui s'appelait le CFPMS à Marseille. C'est une formation de 3 mois. Et là, j'avais rencontré ce mec-là, qui s'appelait Max. Et c'est lui qui connaissait... Parce que faut pas oublier que Dean, il est de Toulon. Donc
tout à fait.
Moi, je suis Marseille, tu vois. Donc, c'est pas si étonnant d'avoir un pote en commun, tu vois. Et je sais pas, Max il aimait bien mes prods et du coup il m'a fait la connexion, il a dit à Dean, tu devrais voir ce mec là, il est chaud, nanana. Il est venu chez moi Dean, à Marseille, parce qu'il vient régulièrement voir sa famille à Toulon, tout ça, il vient à Marseille aussi. Et voilà, il est venu chez moi, il a écouté des prods, on a bossé, et ça a matché direct, humainement aussi tu vois. Les prods, oui c'est ce qu'il voulait, parce que de toute façon, vu qu'il est dur en prod, si les prods lui avaient pas plu, il aurait jamais pris. Mais voilà, il y a eu humainement et la musique est... Et depuis ce jour-là, c'est vraiment... il est dans mon cercle très proche, tu vois, Dean Burbigo.
Un truc que je trouve intéressant sur les prods, donc sur Inception, donc ce premier EP qui sort en 2012, on parlait justement de tes influences, de Dilla, de Khalil, etc. Je trouve que tu t'affines. Tu n'as pas tête s'affine sur des productions de je te vois hocher de la tête, donc j'imagine que tu approuves ça. Est-ce qu'il y a une ou deux prods, justement, sorties sur cet EP-là sur lesquels t'as la sensation d'avoir touché du doigt quelque chose que tu voulais faire, quoi?
Ouais, bien sûr. Mais déjà, je m'améliorais dans le mix. C'était dur avant de s'améliorer dans le mix. Je te jure, c'est pas comme maintenant. Maintenant, ils sont sur FL, ils mettent le soft clipper, il y a tout qui sonne et c'est réglé.
Bien sûr.
Là, maintenant, avant, c'était plus compliqué, tu vois. Mais voilà, c'était la période où je travaillais à fond tous les jours, et je m'étais amélioré. C'est vrai que mes prods commencent à sonner comme je voulais.
Je trouve qu'un morceau comme On Gère, peut-être,
ouais,
ça dit quelque chose justement de comment tu arrives à améliorer ton mix, justement.
Et ouais.
Il y a beaucoup de délais sur les drums, enfin, tu vois, et sans que ça soit brillant, tu vois, je veux dire,
Mais c'est une prise de risque, ce morceau, en vrai. Le On Gère, c'est un sample de reggae, je crois. Je me rappelle même plus où j'avais samplé ce truc. Et d'ailleurs, ça m'avait étonné que Dean, il avait kiffé cette prod. Bref, on a fait un méchant morceau avec. Et je commençais à être satisfait de mes prods, ça c'est sûr.
La peu ça pue la zèbre, y'a que ça qui m'apaise. Je ne veux pas nuire à mes chances de réussite, mais la zizanie m'appelle. J'ai déserté les bandes, la fac préférée les plantes, charasse. Sans savoir que je ne ferai qu'errescent. Travail déréglé, aimé, c'est j'essaierai d'être aimé. Et de c'est mes péchés, mais c'est dur. Cousin de se réveiller seul, pense à glace. Dois prendre ma part, défendre ma place. Rien à célébrer pour m'égayer, je penserai mes plaies sans rendre la place. Chacun de mes.
Et l'année suivante, y'a quand même un truc. Un peu cool, j'imagine, sur le CV quand on a grandi avec le rap marseillais, c'est que tu places sur l'album Art Martien d'IAM,
ouais,
qui est le morceau Les Raisons de la Colère.
Exact.
Comment tu t'es retrouvé à placer cette prod, qui était en plus un single clippé, donc c'était vraiment un morceau fer de lance de cet album-là. Comment t'as rencontré finalement les membres d'IAM et comment tu t'es retrouvé à bosser sur cet album?
C'est mon premier hit, entre guillemets, dans le rap en tout cas, parce que, attends, il passait à Skyrock toute la journée, il y avait le clip, il passait sur M6, et je crois même qu'ils avaient fait un Taratata à l'époque, tu vois, ils avaient fait le Grand Journal, bref. Donc pour moi, c'était une consécration, tu vois, et en plus c'était IAM, comme on disait tout à l'heure, c'est les premiers rappeurs que j'ai écoutés, Akhenaton, c'est mon mentor, tu vois, Shuriken, bref, tout le monde. Et comment je l'ai rencontré? Ludacris.
Just Music Beats.
Eh oui.
Salutations
Just
eux.
Just Music Beats. Oliver Boudacris.
Que tu c'est connaissais depuis longtemps, du coup.
Ouais. C'est Marseille. Hein.
Bah ouais.
Marseille. À l'époque, c'est pas comme maintenant, à l'époque, il y avait moins de beatmakers. Mm-hmm. Donc à Marseille, les beatmakers, ils se connaissaient pratiquement tous, tu vois. Parce qu'il y avait toujours un mec qui connaissait un et tout. Et donc, dès qu'on savait qu'il y en avait un autre, ah ouais, faut qu'on se rencontre et tout, machin, tu vois. Et Boudacris, ouais, j'en rentrais tôt. J'en rentrais, je sais pas, 2009, peut-être 2008, 2009. Mm-hmm. Et lui, pareil, j'étais encore en train de parler avec lui tout à l'heure dans le train. Voilà, c'est lui. Parce que lui avait bossé avec IAM. Il était même parti en tournée avec eux aux États-Unis, tout ça. Il avait fait une belle épopée avec eux. Et vu qu'il m'aimait bien et tout, il savait que mes prods, ça pouvait coller et tout, il m'a fait la passe D. Et du coup, j'arrive à la Cosca et je fais écouter mes prods. Akhenaton, il kiffe. Et kiffe, genre, il me dit, ouais, putain, genre, un petit génie et tout. Genre, putain, Akhenaton qui me dit que je suis un génie. Je dis, ouais, ça y est, c'est la
Cosca. Je me souviens qu'en interview aussi, il louait tes talents à l'époque.
Ouais. C'est
vrai. Toi et Just Music, en fait.
Ouais,
je me souviens qu'à chaque fois, il disait, non, mais en fait, en nouveau talent de la production, il y a ces gars-là. Quoi,
ouais, ouais, c'est vrai que pour lui, j'étais un nouveau, un newcomer, tu vois, un rookie de la prod qui tentait des trucs un peu fous, tu vois, peut-être des choses que lui n'osait pas faire. Moi, je les faisais, tu vois, peut-être, je sais pas, tu vois. Parce que c'est un grand beatmaker, Akhenaton, pour ceux qui ne savent pas encore.
Ah ouais, ouais, très, très grand producteur.
Voilà.
C'est peu reconnu dans sa
Exactement,
carrière,
ouais.
Parce que c'est un immense rappeur,
ouais.
Mais en producteur, il a fait de très grandes choses.
Très, très grandes choses. Donc voilà, il a été touché par mes prods et du coup, on a commencé à bosser ensemble. Après, voilà, WhatsApp, tac-tac, ça renvoie. J'allais régulièrement. La Cosca, c'est à 5 minutes de chez moi. Donc voilà, je bossais beaucoup avec Chill.
Si tu pouvais voir ce feu qui brûle dans mon thorax, ma vie, je la dois au rap, je la dois à l'orage. J'ai pas eu le parcours des petits cons dans la hype, non. Adolescence, t'es pas le king de la night, non.
Et donc en parallèle, c'est vraiment ce truc où en parallèle tu fais ces placements-là, mais c'est à ce moment-là où avec Amine vous êtes en mode house, etc.
Exactement.
Exactement. T'es dans deux mondes un peu parallèles, quoi.
Ouais, totalement. Totalement. Je commence à percer un peu dans le rap et je commence à percer dans la house. Genre, je perce dans les deux en même temps, limite, tu vois ce que je veux dire. Bon, dans le rap, pas énormément parce que ça rapporte pas. Quoique le morceau avec IAM, quand même, ça rapportait bien parce que c'est passé en télé, tout ça. Mais ouais, je me retrouve dans les deux professionnellement, quoi,
ouais.
Tu vois. Et c'est vrai que c'était un peu dur à gérer, mais après, je vais pas te mentir, j'ai tout coupé. Tous mes trucs rap et tout, je répondais à plus personne et je me suis retrouvé dans une sphère avec Amine où j'ai dit, vas-y, je vais vivre mon truc à fond, mon truc de la house à fond. Je fais de l'oseille, je vois des meufs, je voyage, je me régale. Et c'est ce que j'avais pas pu faire avant, tu vois.
Bien sûr.
J'étais avec mon meilleur ami et vas-y, fuck le monde. Tu vois, j'étais dans cette mentale-là. Je sais pas si elle est bonne, si elle est pas bonne, j'en sais rien. Peut-être que je devrais la regretter, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé.
C'est vrai que quand j'ai re-regardé un peu tes crédits, ta discographie, il y a encore des prods rap qui arrivent un petit peu avant le milieu des années 2010. Je pense à Pour Dinos,
ouais.
Pour Dino encore.
Ouais.
Pour Gino, un rappeur aussi de
Gino de Marseille, ouais,
de Marseille.
Ouais, ouais.
On parlait de Rollo justement, c'est des mecs qui sont proches.
Ouais.
Mais par exemple sur 2015, j'ai rien vu en termes de production rap à ton nom. Tu
vois. Ouais, parce que j'avais, il y avait un petit peu, ouais, on va dire ça a commencé un peu, ça sortait encore un petit peu parce que c'était des vieilles prods qui traînaient,
ouais,
que j'avais
ouais.
déjà envoyé, qu'on me demandait encore un peu des fois, je sais plus, ou peut-être que c'était des prods que j'avais déjà envoyé qui, ils ont sorti plus tard peut-être, comme Dean, je me rappelle la prod On y va sur son album Grand Cru.
Grand Cru, ouais.
Ouais.
Je crois qu'il a eu des difficultés en plus à faire cet album-là dans le temps, en tout cas,
ouais,
ça a pris du temps aussi. Donc, ouais.
Ouais, ouais. Ben moi, voilà, cette prod-là, j'avais fait de 4 ans avant.
Sous drogue douce, on veut plus d'un job pour le SMIC, on sait ce que le monde peut offrir, on veut qu'il nous l'offre tout de suite. Ils ont trop de mailles et pas assez d'idées, on a trop d'idées, pas assez de mailles, on est fait pour s'entendre, pour saccager le bal.
C'est sorti quoi en 2015, ça, Grand Cru, non?
Grand Cru, ça sort en 2017.
2017, hein,
ouais,
voilà.
Tu vois.
2017, moi, j'étais. J'étais States, je sais pas où. Mais j'étais pas dans le rap, en tout cas, pas du tout. Mais j'avais cette prod là, elle traînait dans son ordi, et il a kické, et il a mis dans l'album. Mais j'étais plus dans le rap.
Ouais, ouais. Donc, si on parle par exemple des prods comme celle pour Dino sur L'Alchimiste, sur son EP d'après aussi, dont j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Bref, un morceau qui s'appelle Déclenche l'alarme, tu vois, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui traînaient depuis longtemps dans ton disque dur, que tu avais réussi à.
Ouais.
Par l'entremise de DA ou de,
voilà,
de contact,
ça,
en fait, c'est ça, c'est
ouais,
comme
ouais,
ça que ça
ouais,
se passe.
Ouais. Ça. Putain, Dino, je me rappelle plus comment je l'ai rencontré. Mais on avait des potes en commun aussi, pareil. Ben, je crois que ça venait de Dean, en fait.
Ouais, bah, ce sera pas surprenant.
Ouais, 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 je pense que ça venait de Dean, ouais. On se parlait sur MySpace, sur le Twitter,
ouais.
Tout ça, voilà, bref. Voilà. Toujours en contact avec Dinos aussi. T'entends, on se capte, on fait du son, c'est lourd.
Et donc, à quel moment, alors que t'as cette vie de DJ house avec Amine, à quel moment tu recommences à raccrocher les wagons avec le rap? C'est au moment où t'en as marre de ce mode de vie? Comment ça se passe, en fait?
Et ben, donc ce mode de vie où c'était genre sur un nuage, où tout était beau, tout ça, ça a duré 4-5 ans. Tu vois. Mm-hmm. Après, je commençais à en avoir marre. Parce que j'avais plus l'épanouissement de la musique et ça commençait à me manquer, tu vois. Et puis même les avions, genre le rythme, il est insoutenable, en fait. Vraiment. Bien sûr. Je sais pas si tu... Si on... En fait, faut le vivre pour voir. Tourner en tant que DJ international, c'est...
Bah, tu sais plus où t'habites, quoi.
Ouais.
Bah, puis tu dois être en décalage horaire, ça doit être fatigant pour le corps, pour tout. Ouais.
Bien sûr, parce que t'as les vols, t'as les escales. T'as les, des fois, je faisais trois dates dans la même journée, dans trois pays différents. Amsterdam, Londres, Bruxelles, bah, des fois, par exemple, dans la même journée, des fois, je faisais des trucs comme ça, tu vois. Ou peut-être en deux jours, tu vois. Mais c'est hyper fatigant, tu vois. Tu dois mixer, hein, parce que quand t'arrives, tu dois sourire, tu dois être content, alors qu'en fait, t'as pas dormi. Et donc, au bout de quelques années, moi, ça m'a fatigué, tu vois. Et j'en avais marre de voyager, j'en avais marre des avions, j'en avais marre de tout ça et tout. Et surtout, j'avais le rap qui me manquait. Et le Covid. Voilà. Et le Covid, et ben donc, du coup, plus de.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mais oui. Plus de festival, plus de club, plus rien. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je suis chez moi, ben, je vais revenir à mes premières amours, comme on dit, tu vois. Je vais me remettre à faire des instrus rap. Et c'est reparti de là.
Avant qu'on parle justement de ce retour de flamme, justement, tu vois, est-ce que quand même sur cette période house où vous mixez, mais vous produisez aussi des morceaux, je crois,
ouais.
Est-ce qu'il y a quand même un ou deux morceaux dont tu tires une satisfaction personnelle, tu vois, de créativité, de développement esthétique, tu vois?
Ah oui, totalement. Ah, je suis très fier de ce qu'on a fait. J'en ai eu marre, d'accord, bien sûr, mais je suis très, très fier. Genre, déjà, on a créé un style de musique. Notre musique, on l'a appelée la G-House, mm-hmm. tu vois, comme la G-Funk. Donc déjà, il y avait un truc qui vient du rap, tu vois. On a appelé ça la G-Funk, la G-House. Et pourquoi? Parce que je prenais que des acapellas de rappeurs. Pourquoi? Parce que dans mon ordinateur, il n'y avait que des acapellas de rappeurs. J'avais aucune raison d'avoir des acapellas de house, je sais pas quoi, j'y connaissais rien, tu vois. Donc j'avais que des trucs de rappeurs et je prenais des bouts de samples, de bouts de voix de rappeurs Kenry. Et on mettait des grosses lignes de basse, machin. Il y avait un côté très rentre-dedans et tout, qui faisait peut-être rappeler un peu le rap, tu vois, genre, dans ce côté énervé, tu vois. Et voilà, on a appelé ça la G-House, et ça, j'en suis très fier, parce que maintenant, c'est carrément devenu un style de musique. Maintenant, les gens font de la G-House, quoi, tu vois. Et il y en a même qui font de la G-House, qui ne savent pas que c'est moi qui l'ai créé avec Amine, tu vois. Et c'est devenu un style sur la plateforme Beatport, je ne sais pas si tu connais, mais c'est une plateforme hyper importante, tu vois. C'est devenu un style G-House, tu vois. Même sur Splice, t'as un truc G-House. Tu vois, c'est quand même des trucs, c'est big, quoi, tu vois. Ça vient d'une idée qu'on a eue, Amine et moi, comme ça. Donc ça, j'en suis vraiment très fier.
Ce serait quel morceau, si tu dois en citer un?
Si je dois te dire le morceau, déjà, mon premier hit, en vrai, le Going to Heaven with Goody Goodies.
Avec le sample
de Biggie. Ouais. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Afro Crooks, avec le sample de Prodigy. C'est aussi pareil, c'est les racines, tu vois.
Ouais.
C'est magnifique. Après, il y en a plein d'autres aussi. J'ai fait un remix de Frank Ocean, de Lost, qui est devenu limite une hymne au Brésil. Genre, les gens, quand on le joue, il y a des meufs, elles pleurent et tout. Genre, tu vois, c'était complètement fou. Complètement fou. Alors, bon, en fait, c'est des bootlegs, tu vois. Genre, on les a même pas sortis sur Spotify et tout, tu vois. Genre, on les a mis sur SoundCloud un peu sur YouTube.
C'était à l'époque où encore sur SoundCloud, il y avait cette liberté où on pouvait mettre ce qu'on voulait, quoi.
Exactement. On l'a mis, par exemple, celui-là, le Lost, là, on l'a mis sur SoundCloud. Il montait à 2, 3, 4 millions de vues, de play, tu vois. Et après, même encore plus, je sais plus, bref. Et après, on l'avait enlevé, tu vois. Parce qu'on commence à avoir peur, on dit, comment on va se faire attaquer et tout, c'est pas bon, tu vois. Mais le track, il était connu déjà. Et maintenant, tout le monde le joue et tout, mais c'est un bootleg. C'est un truc, d'ailleurs, il n'est pas déclaré, il n'y a rien, tu vois. Ouais.
Mais en même temps, c'est ça la liberté de la musique. C'est-à-dire que même si parfois il n'y a pas d'histoire de droit, etc., à partir du moment où les gens s'approprient le truc,
voilà.
Ça tourne, quoi.
Ouais, c'est ça.
Tu le disais, y a donc cette période où tu tournes beaucoup avant le Covid, tu continues quand même à placer des sons. On te retrouve encore au crédit d'un album d'IAM, par exemple, l'album de Yasuke.
Oui, exact.
Comment ça se passe? Ça, c'est des prods que tu fais entre deux escales? Ou est-ce qu'à un moment donné, quand même, tu as le temps de passer en studio pour bosser avec IAM directement?
Ouais. Mais dans cet album-là, ouais. Ce qui est marrant, c'est que c'est des prods de 2011.
Ça, c'est fou, ça.
Tu vois, ouais. Que Till, il m'avait bloqué. Et il m'avait dit, ouais, il faut que je fasse un truc. Là, ben, ça a pris 10 ans. Ouais, je sais pas. Bref, il a voulu la ressortir. Il a fallu que j'aille chercher les pistes dans mon ordi.
Ah ouais.
Alors que c'était 10 ans en arrière, tu vois.
Ah ouais.
J'ai passé une journée entière à trouver les pistes. Bref.
De l'archéologie.
Ouais, exactement. Mais j'ai réussi et voilà, on a sorti le morceau. Et puis là, il l'a retouché aussi, la prod. Mm-hmm. Il l'a un peu actualisé. Il a fait ses trucs à lui. Mm-hmm. Et voilà. Donc, il y avait des vieux trucs. Mais il y avait aussi des trucs que j'avais fait. Ouais, parce qu'il m'avait appelé vers 2018-2019. Je me rappelle, j'étais en Équateur. J'étais en Équateur sur un hôtel sur la plage. Attends, je dis pas de bêtises, la plage en Équateur. Ouais, en Équateur, putain, ouais.
C'est un pays côtier, en tout cas. Donc c'est possible qu'il y ait des plages.
Ouais,
hein.
Parce que je jouais dans un club là-bas où j'étais resté 3 jours. C'est en Équateur, bref. Je te dirais, bref. Okay.
En Amérique du Sud.
En Amérique du Sud, voilà.
Parce, par contre, c'est sûr que ça parlait espagnol, il faisait chaud.
Exactement. Voilà. Exactement. J'avais un hôtel sur la plage, machin, et il y avait Chill qui m'avait appelé, il m'avait dit on prépare un album et tout, j'aimerais bien que tu me passes des prods et tout. Et je m'étais calé chez moi alors que j'avais complètement quitté le rap. Et il m'a dit, vas-y, fais-moi des trucs et tout. Et vu qu'on peut rien refuser à Chill, je me suis calé dans mon hôtel face à la mer comme ça. Et j'ai fait toute la journée, j'ai fait des prods. J'en ai fait peut-être 5 ou 6, tu vois. Et j'ai envoyé, il y en avait une qui est rentrée dans le...
Bah, ça m'étonnerait pas que ce soit le morceau peut-être Quand est-ce qu'on s'aime.
Je crois, ouais.
Qui sonne le plus moderne, en fait, des trois placements que tu as sur cet album-là. Quoi. Qui est d'ailleurs la seule coprod avec Amine.
Ouais.
Donc, ce qui aurait du
sens
avec le fait que tu l'aies fait à ce moment-là.
C'était encore la période où je créditais tout ce qu'on faisait. Tout ce qu'on faisait avec Amine, ben, obligé de créditer Amina J-Dance, parce que c'était comme ça, c'est la loyauté, c'est normal, tu vois.
Normal.
On fait tout ensemble.
Ouais. J'ai dans le cœur entassé des plumes, du velours et des lames en acier. Un peu de j'aurais dû et des tonnes de regrets. Quelques j'aurais pu, mais le train est passé. Là, c'est des cons, la foi s'est cassée. Vois sur ma face, le regard s'est glacé. Ivre de vie, je veux pas trépasser. Pas avant que l'amour ne vienne m'embrasser.
On le disait donc, 2020, Covid. Ton mode de vie fou de DJ international s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu retombes sur tes pattes personnellement, mais aussi créativement à ce moment-là?
Ben, j'avais cette frustration quand même depuis quelques années là, que c'était en moi, et j'avais envie de me remettre au rap, au R&B, tout ce que j'aime le plus, tu vois. Et donc, ça a été le moment parfait pour faire ça. Et je me suis dit, vu qu'il n'y a plus de date, il n'y a plus rien, j'ai plus rien à faire. Je vais reprendre un peu contact avec les gens un peu importants à Marseille. Mmh. Tu vois, c'est des potos en fait à la base, donc c'est même pas en mode business ou quoi. Ouais, je vais voir l'adjoint. L'adjoint, tu vois qui c'est, j'imagine.
Bien sûr.
Voilà.
Le carrefour.
Voilà,
c'est la plaque tournante.
Exactement. Qu'est-ce que voilà. je fais?
Grand producteur, ingé son aussi.
Aussi, bien sûr. Tous les Fianso, les SH aussi, je crois. Bref. Et lui, c'était la famille depuis très longtemps. Il avait nos studios avant, bref, depuis des années. Je dis, bon, vas-y, je vais aller voir, je vais passer au studio à Beatbounce à l'époque quand il avait ce studio-là. Et là, je le rencontre et je me remets un peu dans le truc et tout. Et je ne sais pas si c'est la première fois que j'y retourne ou la deuxième fois, mais il y a IAM, il y a Akhenaten qui est là. Parce qu'il y avait Shuriken aussi, je crois. Mais il y avait surtout Akhenaten qui est là et il y avait Soso aussi, Soso Maness. Que je connaissais via, parce que je connais Soso Maness, mais je ne le connaissais pas personnellement, tu vois. Et là, une anecdote de ouf, ce qui m'est arrivé, c'est vraiment un coup de chance. Akhenaten devant Soso qui me voit, me dit oh lolo, parce qu'il m'appelle même pas Dance, parce que je suis en mode comme si c'est son fils limite, tu vois, il me dit oh lolo, ah ça va ou quoi machin, putain, lui c'est vraiment un génie lui, hein, devant Soso, tu vois. Et Soso il a dû dire en vrai putain, mais c'est qui ce mec en fait? Tu vois ce que je veux dire, c'est Akhenaten, il dit que c'est un génie, attends, c'est un truc de fou, tu vois. Et après, de fil en aiguille, je sais plus exactement pourquoi, mais j'ai commencé à être avec Soso Maness. Ben oui, un truc très important, c'est Kamel Knight. Après, je sais pas si tu connais, mais je suis obligé de le citer.
Vas-y.
Il travaillait déjà avec Soso Maness, et via Kamel Knight, et via aussi un peu Akhenaten qui avait un peu poussé le truc. Je pense que ça a donné un peu des idées à Soso, il a accepté de me voir. Et j'ai commencé à travailler avec Soso Maness aussi, à cette période-là.
Ok. Et donc, vous commencez tout de suite à faire des prods ensemble, parce que de mémoire, le premier album de Soso, il sort en 2020, je crois.
Premier album, tu parles de Rescapé?
Ouais.
Ouais.
Je crois que c'est peut-être 2020, ouais. De mémoire.
C'est possible.
Mais vous n'avez pas des prods tout de suite avec lui? C'est sûr, avec le temps que vous avez les premières productions. D'accord.
Exact. Et je suis allé le voir grâce à Kamel Knight. Il m'a ramené dans son studio qu'il avait à Aix-en-Provence. Mm-hmm. Et j'ai rencontré Soso. Et je fais écouter des prods. Et le premier jour que je fais écouter des prods, il fait un freestyle sur une prod à moi, filmé, qu'il met sur Insta.
Okay.
Qui fait 1 million de vues Première fois que je rencontre Soso Maness, tu vois. Donc j'étais très content, tu vois, une prod drill. Et voilà, ça, comment j'ai travaillé avec Soso, ça a été comme ça déjà.
Et donc il y avait déjà aussi Amine qui était avec toi en studio avec lui ou c'était toi tout seul?
Non, c'était moi tout seul.
C'était toi tout seul.
Pendant la période Covid, je l'ai pratiquement pas vu en fait, Amine. Okay. Parce qu'il était, lui, il habite à Lisbonne.
Ok.
Et au Brésil aussi, il a un peu de trucs. Donc je le voyais pas trop et j'ai commencé un peu à faire mes trucs solo. Okay. Parce qu'il y a quand même un truc qu'il faut que je dise, parce que je l'ai même pas encore dit, je l'ai même pas annoncé, rien du tout, mais je le dis ici, c'est qu'on s'est séparés là avec Amine.
D'accord.
De la semaine dernière.
Ok.
Voilà.
Ah oui, donc c'est vraiment tout récent.
C'est tout récent.
C'est tout récent.
Personne ne le sait encore.
Très bien.
Voilà, je le dis ici. Bon.
Ok.
Tu mettras pas celle-là en snippette.
Promis. Voilà. Promis. C'est pas dur, on peut quand même le dire dans l'émission.
On peut le dire, bien sûr, non, parce qu'il y a aucune guerre. Genre, c'est mon frère, ça restera mon frère toute ma vie. C'est juste que. Comme tu es en train de comprendre, que je suis en train de me mettre dans le rap à fond, le truc qui me manquait depuis des années.
Bien sûr.
Et lui, il est dans la house parce qu'il a toujours été et que c'est sa passion. Tu vois, on s'est dit, bon, bah, vas-y maintenant, mets-toi. Lui, il m'a dit, mets-toi à fond dans le rap et tout. Et moi, que chacun fasse ce qu'il a envie de faire vraiment.
Je comprends tout à fait.
On a eu une épopée qui est incroyable, ça a duré 10-12 ans, tu vois. Voilà, maintenant, on tourne une page et on part sur l'autre truc.
Et donc, on le disait, avec Soso, vous commencez à travailler ensemble. Il y a deux albums qui sont sortis sur lesquels tu as beaucoup de production. On le disait, il y a Avec le temps. Mm-hmm. Et donc, l'an dernier, il y a eu également À l'aube.
Ouais.
Comment ça se passe, du coup? Est-ce que, avec ces années de musique et d'expérience accumulées, tes forces de proposition en disant à un mec comme Soso, tiens, je t'imaginerais bien poser sur un truc pareil. Mm-hmm. Est-ce que c'est lui qui, parfois, sur certains morceaux, dit, hey, j'aimerais bien tenter un truc comme ça, il y a moyen que tu le fasses? C'est quoi un peu votre dynamique, justement? Toi qui a commencé à prendre de la place,
oui.
Sans, tu vois, dans sa carrière, quoi.
Ah oui, je suis devenu limite son beatmaker, quoi. Parce que. Mais pour rebondir sur ta question, c'est qu'on fait les deux en fait. Soso, c'est un architecte dans sa tête, genre il a trop d'idées. Il a trop d'idées, ça déborde d'idées tout le temps. Et donc souvent, il me disait voilà, prends ce sample-là, fais ça comme ça, prends ce truc-là, viens, on s'inspire de ce truc-là, ce BPM-là, ce style-là, reggaeton, truc, machin, n'importe quoi, tu vois. Et donc souvent, je réalisais les idées de Soso, avec un peu ma touche forcément, voilà. Et de temps en temps aussi, je proposais des prods que je faisais moi chez moi tout seul, ou alors même quand on était au studio, des fois je faisais du son, il était à côté, ça chillait au studio, et des fois il kiffait, et voilà, il prenait les prods. Mais c'est vrai que maintenant, avec moi, il a eu se dire, voilà, quand j'ai une idée, maintenant je sais qu'il peut le faire. J'ai juste à l'appeler, il est toujours dispo dans tous les cas, il fait les choses à peu près bien, tu vois, un peu comme je le ressens. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans l'équipe. Et du coup, on a fait beaucoup de choses avec Soso. J'ai une longue histoire avec Soso. On a fait plein de séminaires au Mexique, séminaires à Dubaï, des 3 semaines, 2 semaines. J'ai un milliard d'anecdotes avec Soso, mais bon, je vais les garder pour moi. Mais
on va rester sur le musical.
Voilà, sur le musical. Voilà, c'est vraiment. Il m'a mis un bon pied à l'étrier aussi, parce qu'il m'a présenté énormément de gens dans le milieu. Parce que moi, voilà, je revenais de la house, donc j'essayais un peu de m'y remettre et tout, mais avec Soso, direct, le mec, c'était déjà une star. Donc c'est vrai que ça ouvre des portes plus facilement.
Sur tes réalisations, justement, sur les deux derniers albums, est-ce qu'il y a un ou deux morceaux sur lesquels, en termes d'intention musicale, d'idée, de créativité, que tu retiens en particulier?
Ouais, il y a une anecdote, justement, on était au Mexique. Celle-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Il me disait, il faut que tu samples un chant rebeu ou un chant... Ou même, je veux une voix rebeu avec un truc un peu libanais, un truc, trouve-moi quelque chose, on va sur YouTube et tout, je trouve un sample, un truc d'une vidéo de 3 heures, tac, je l'exporte et tout, machin, j'arrive à trouver une loupe de 5 secondes, je la mets en truc, je la triture et tout, je fais une grosse trappe, je vais sur YouTube, je trouve une voix et on a essayé de l'accorder avec la mélodie qu'on avait trouvée qui n'avait rien à voir, donc on a mis l'autotune, le truc mélodyne, bref, on a un peu bossé, mais... Et c'est trop que la prod, après moi c'est une de mes propres préférées que j'ai fait pour Soso, c'est l'outro de Avec le temps.
Les petits montent à la gratte, en survêt cagoulé, ça revient faire le videur si t'as osé les refouler. On fait du vice à la jappe, promesse d'embauche cannulée, on a remonté la frappe, deux voitures, un relais. C'est le troisième album, jamais 203, jamais Christ sans croix, jamais frère sans foi. J'ai vu la mort et la haine derrière 11-4-3, alors qu'on s'était promis jamais moi sans toi.
J'adore cette prod, j'adore les paroles et même il a fait un panet rap. Et je sais pas, même il le fait, il a les yeux fermés et tout. Moi, je me rappelle quand il l'a fait, quand j'ai vu cette vidéo, je te jure, j'ai eu les frissons. Vraiment, vraiment. Il a interprété d'une manière où tu te dis, ah ouais, en fait, c'est ça, tu vois. C'est exactement comme ça qu'il fallait le faire. Et Soso est très bon en interprétation, donc voilà.
Et puis en plus, donc, vous avez continué aussi avec À l'aube qui est sorti l'an dernier. Et j'ai l'impression que Tu reviens aussi à un des trucs un peu club justement avec lui. Je pense à un morceau comme DLC.
Ouais.
Tu vois, où, ouais. Donc avec McTayer.
McTayer, exact.
Où il y a un peu ce truc de revenir à des sensations que tu avais eues façon rap.
Ouais.
En étant un peu crapuleux aussi. Donc un morceau comme ça, je trouve que ça fait un peu le pont entre tes deux parcours. Quoi.
Mais totalement. C'est là que j'ai commencé à utiliser mes drum kits house dans le rap. Mm-hmm. Mais je l'ai fait, pas forcément les drum kits, mais les lignes de basse, les trucs, tu vois. Que j'utilisais dans la house. Je me suis dit, putain, en fait, le mélange, en vrai, il est lourd, tu vois. Mais parce que DJ Moustard, il faisait ça, tu vois.
Bien sûr. Déjà. Ça fait très ratchet, ce morceau-là. Ouais.
Exactement, ouais. Tu vois. Et il mélangeait les sonorités house avec le rap. Et moi, je trouvais ça trop lourd, tellement. Mais je me suis dit, putain, mais il m'a copié ou quoi, c'est pas possible. Bon, en vrai, pas du tout, il me connaissait pas. Mais il faisait des trucs un peu comme moi, je faisais, mais que. Bref. Donc, je trouvais ça trop lourd. Et, mais par contre, c'est une idée de Soso encore, ce morceau. Mm. Il voulait un truc qui rappelait le react de.
Redman, ouais.
Voilà.
Produit par Just Blaze.
Ouais. Exactement, ouais. Just Blaze. Et il voulait un sample un peu indien, comme ça, tu vois. Bon, au final, c'est pas du tout le même son, mais l'idée de départ, ouais. c'est l'inspiration. J'aime bien bosser comme ça, parce que recopier un morceau, ça sert à rien.
Bien sûr.
Ça sert à rien de le faire. Par contre, d'avoir une petite idée comme ça, un petit sample indien comme lui et tout, ok, ça c'est lourd. On part sur un truc qui a rien à voir, mais il y a quand même l'âme du morceau qui est comme ça. Et ça, c'est cool. Ça va finir comme Big Mitch. T'en es par un appel anonyme d'une big snitch. On a caché la drogue à l'aide de Fenwick. Et le camion G-Cher passera par le 6-6. Mike, Alpha November, Echo Sierra deux fois. Je lève le scotch au sécateur statique qui filtrait trois fois. Y'a l'OFAS dans le club qui nous prend en photo. Je danse le Seawalk en cellule, en buvette et joint de pop pop pop. Un autre artiste important, et je l'ai cité en début d'émission, il y en a même deux, mais on va commencer par parler de Zamdan. Mm-hmm.
Comment tu fais la rencontre avec Zamdan et qu'est-ce qui te plaît éventuellement chez lui artistiquement pour avoir envie de travailler avec lui?
Alors déjà, comment on s'est rencontré? Déjà, moi, je ne le connaissais pas. Mais du tout, moi, tu me disais Zamdan, je ne savais pas du tout qui c'était. Et il y a son ancien DJ qui s'appelle Younes, Trackworks, un DJ de Marseille que moi, je connaissais. Parce que moi, souvent, j'allais en soirée, tout ça. Tu connais, j'aime bien voilà, sortir un peu. Je l'avais rencontré, j'aimais bien ce qu'il jouait, on était devenus potes. Et vu que c'était son DJ, je sais pas, il a pensé à moi. Vu que je pense que Zamdan vous cherchait des prods à cette période-là, et il a pensé à moi. Et il m'a connecté avec Zamdan. Il m'a dit gros, vas-y, il y a Zamdan, il est là, il faut que tu le fasses écouter tes prods et tout, ça va être lourd et tout. Je dis vas-y, pourquoi pas. Je savais pas qui c'était. Hein. Avant qu'il arrive, on a programmé ça pour le lendemain, le surlendemain. Tu connais ça va vite. Hein.
Non, bien sûr.
Et donc le matin même, j'écoute un peu ce que fait Zamdan et tout. Je vois que j'aime bien. Je vois qu'il rappe sur des prods que ça me parle, tu vois. C'est des trucs que j'aime bien. Du coup, je me dis, bon, vas-y, raison de plus, vas-y, fais-le venir. Moi, en plus, chercher un rappeur pas très connu, pas développé, parce que je ne suis pas producteur, mm-hmm. dans le sens producteur, label, tout ça.
Ouais.
Mais
avec lequel être inventif, essayer de faire des choses un peu nouvelles.
Exactement.
Quoi.
Et ouais. d'avoir un genre de, pas un duo, mais un truc vraiment lui et moi, tu vois, et faire que des trucs lui et moi, tu vois. J'avais envie de faire ça depuis un moment, tu vois. J'en avais même parlé à Bouddha Chris pendant un moment, je voulais faire ça avec lui, bref. Et du coup, donc, c'est Zamdan qui arrive chez moi. Et on discute tranquillement. Et il me dit, fais-moi écouter un peu des prods et tout. Je fais écouter des prods. Il se met à chanter sur toutes mes prods. Et à bien chanter. Genre, sans micro, hein. Mmh. Juste comme ça. C'était juste et tout, tu vois. Et je vois qu'en fait, il est tout terrain, polyvalent et tout, trop fort. Il disait des trucs, il improvisait parce qu'il est trop fort en impro. Il faut savoir, Zamdan, en impro, c'est un des meilleurs. Vraiment, vraiment. Des fois, en soirée, comme ça, on est là sous substance, il fait des freestyles comme ça et tout, c'est impressionnant. Moi, il me fait halluciner, vraiment, vraiment. Donc, il chante, machin et tout, je vois le talent du gars, j'ai dit, putain, ouais. Vas-y, on va essayer de commencer à travailler vraiment, tu vois, parce que là, c'était juste la première session de mm-hmm. faire connaissance, on va dire. Et j'ai commencé à lui envoyer des trucs, il a commencé à venir chez moi plus régulièrement, on se voyait, on est devenus potes, du coup, parce qu'en plus, il habite à 5 minutes de chez moi. Et on a commencé comme ça. Et on s'est plus lâché. Parce qu'encore hier, je savais lui...
Alors justement, cette relation artistique naissante en 2021 sortent les premiers affamés sur lesquels tu travailles.
Exact.
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, et après il y en a eu encore plein.
Ouais.
De tous les affamés, certains sont encore sortis cette année, est-ce qu'il y en a un ou deux, tu vois un peu la même question que j'ai posée avec Soso, sur lequel tu as une forme de satisfaction de justement cette créativité que tu as voulu pousser avec Zamdan?
Ouais, il y a Prismel aime ça.
Ok, qui est sorti cette année.
C'est le 16,
ouais, c'est ça.
Je dis pas de bêtises. Ouais, Tris, mais elle aime ça. Celui-là, en vrai, c'est tout simple. Hein. Tu sais que Ayoub Zamdan, il a...
Bon, il le dit lui-même son prénom
voilà,
dans ses morceaux, donc
je
peux le dire.
J'ai du mal à l'appeler Zamdan, je dis tout le temps Ayoub, tu vois. Donc, Ayoub ou Zam, bref. Il adore les guitares. Il adore les guitares tristes.
Ouais, il y a un truc de guitare mélancolique méditerranéenne parfois, exactement. Ce motif que vous reprenez.
Exactement.
Qui est signature presque.
Oui, on a développé ce son-là, ouais. Mais là, le 16, là, ça arrivait après. Donc il y avait encore cette guitare. Il me disait, putain, il a trouvé sur YouTube une guitare. Un mec, il joue une guitare trop bien enregistrée et tout, samplable parfaitement, tu vois. Et je dis, ah, bah, vas-y, envoie et tout. Et je commence à faire la prod. Bon, j'ajoute plein de trucs, machin, je fais un truc. Le morceau, il est incroyable. Non, d'abord, je lui envoie la prod. Lui, il sert. Enfin, il pète les plombs. Et le lendemain, d'abord, il me dit, viens en session ce soir et tout, je vais l'enregistrer et tout. Je pouvais pas, bref. Et le lendemain, il m'envoie le son. Je me réveille le matin à 8h. Et j'entends le son, je mets les écouteurs dans mon lit, tu sais, limite à moitié réveillé. Et genre, j'entends ce son, et limite, je chiale encore. Genre, c'était un truc de fou, trop d'émotion, comment il a chanté et tout. J'ai pété un câble. Et voilà, ça, c'était vraiment un de mes morceaux préférés quand on a fait lui, moi.
Si ma bonté a ses limites, ma méchanceté n'est pas limitée. J'aimerais me calmer, mais c'est trop tard. Un Richard m'a traité de clochard. Je me suis occupé de son cas, et maintenant sur ma chemise, j'ai les taches de Rorschach. La drogue a circulé sur des kilomètres, certains finissent menottés et d'autres ligotés. J'appelle mon frère pour des nouvelles, et j'apprends qu'il cavale comme du pont de Ligonnès. Tu crois que c'est quoi la vie? Même le mal on banalise. Le teuton nous canalise, on est maudit, mais on croit au paradis.
Bon, après, il faut savoir qu'on a contacté le mec de la guitare et qu'on lui a donné sa part et tout, on a fait les choses carrées.
Ça, c'est clean, parce que tout le monde le fait pas, donc c'est carré. Cool de l'avoir fait.
Ah ouais. Voilà, après, si on parle de mes morceaux préférés avec Zamdan, j'en ai 3-4, mais...
Okay. Là, je voulais au moins parler des Affamés, parce que c'est un peu à chaque fois des moments qui capturent, j'imagine, un mood, une intention, etc. Mais entre-temps, il y a eu Couleur de ma peine aussi, qui sort en 2022. Sur un disque comme celui-là, est-ce qu'il y avait des intentions similaires aux Affamés? Ou est-ce qu'il y avait l'envie d'aller plus loin, c'est-à-dire de faire un vrai disque, un vrai album avec des ambitions musicales un peu plus poussées? Voilà, voilà, c'est
bien
pour,
sûr,
pour ça que je te pose cette question-là.
Les Affamés, c'est un peu un truc spontané. On fait des morceaux comme ça, on va en session, on fait un truc, tac, on le sort. Même ses paroles, ce n'est pas les mêmes et tout, souvent. Et après, quand on a décidé de bosser sur l'album, non, on ne l'a pas approché de la même manière. C'était différent. On va chercher des musiciens, on va chercher des guitaristes, des pianistes, même des violonistes. On essaie de faire les choses bien, tu vois. Mais tout en gardant l'âme de Zamdan.
C'est ça, ce truc très mélancolique, méridional.
Exactement.
Moi, je sais que les Affamés, j'étais un peu passé à côté. Depuis, je les ai rattrapés. Mais je me souviens que ma fenêtre, et je le dis à Essien ce mot-là, ma fenêtre sur Zamdan, ça a été Le Monde par ma fenêtre, justement.
Bah, je voulais t'en parler de celui-là. Mais
ouais. Bah, parlons-en. Parce que moi, vraiment, j'entendais son nom circuler, tu vois, je le lisais, etc. Et je me prends ce morceau-là, je fais « Ah ouais, il y a un truc. » Pour moi, tout de suite, j'entends une singularité, ouais, tu vois, quand j'entends ce morceau-là. Alors, pourquoi, justement, toi, tu voulais en parler de ce titre?
Parce que c'est... Ouais, je te parlais de Tris Melemsa, mais c'est vrai que Le Monde par ma fenêtre, c'est mon deuxième préféré. Ou peut-être même mon premier préféré. C'est juste qu'il est un peu plus vieux.
Ouais.
Donc, tu vois, on aime toujours les trucs plus récents. Tu
bien sûr.
Pas. Mais Le Monde par ma fenêtre, c'est un ovni. Ça, c'est un morceau, la mélodie, les trucs. C'est un truc de fou, tu vois. C'est là que je me suis dit... que j'ai vu à quel point il pouvait être fort, tu vois. Bon, je savais déjà, mais là, Le Monde par la fenêtre, il m'a touché. Genre, pareil, j'ai envie de chialer à chaque fois que j'écoute.
Ça t'arrache une larme, ce morceau.
Mais vraiment, tu vois. Et c'est un des rares morceaux, pas des rares, mais il n'y a pas énormément de morceaux que j'aime bien réécouter, que j'ai produit. Il y en a de temps en temps, mais celui-là, je peux l'écouter tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Je l'adore, ce morceau. Vraiment, vraiment.
J'ai tellement de questions dans ma tête que je vais sûrement tout céder à la haine. Le soir, je me sens mal, je ne dors pas, j'analyse. Grandi dans un monde parallèle où tout ce que je vois passer par ma fenêtre en vrai n'est pas si facile à vivre.
Puis il est entêtant. En fait, c'est ça qui est intéressant avec ce morceau, c'est qu'il est très triste.
Ouais.
Il peut vraiment, je le disais, arracher une larme, tu vois, vraiment émouvoir.
Ouais.
Et en même temps, il est très entêtant.
Ouais.
Une fois que tu l'as entendu une première fois, il ne te quitte pas de la tête. Quoi.
Ah, et puis il y a ce violon, il te rentre dans ton cœur.
Ouais.
Voilà.
Ouais, totalement. Et il y a un truc intéressant sur le travail avec Zamdan, c'est que toi qui as longtemps travaillé justement en binôme, là, il y a aussi beaucoup de coproducteurs.
Oui.
Sur plein de morceaux. Est-ce que tu avais besoin de retrouver quelque chose comme ça, un travail un peu de binôme? Parce que, je sais pas, il y a des choses que tu maîtrises pas encore et qu'il y a d'autres personnes qui ont des fortés, tu vois, des atouts qui arrivent à compenser, tu vois, certains trucs. Voilà. Comment ça fonctionne, justement, ce truc de coproduction sur des morceaux
Il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'on faisait souvent des séminaires où on était 3-4 beatmakers, tu vois. Donc forcément, on est tous dans la pièce, ben on se met tous en crédit parce qu'on a tous les idées, les trucs et tout, ça fuse. Donc forcément... Donc ça fait des collabs, ça, bien sûr. Et après, il y avait aussi le truc où... Comme je te disais tout à l'heure, j'ai jamais fait de solfège, j'ai jamais fait de violon, j'ai jamais fait de guitare, je sais pas faire. Donc on délègue. Dr Dre le fait, tout le monde, DJ Khalil le fait,
bien sûr,
qui sont mes idoles. Voilà, pourquoi moi je pourrais pas le faire, tu vois. Et puis c'est évident en fait, tu vois. Moi, on veut garder ce côté authentique des instruments. Ayoub, il adore vraiment ce côté authentique, comme je viens de dire. Donc faut aller chercher des guitaristes, des musiciens. On est obligé. Avec la musique qu'on fait, on est obligé. On peut pas se permettre d'aller faire des trucs dans les plugins, les guitares plugins. C'est peut-être faisable, mais c'est toujours mieux les musiciens. Donc voilà, collab forcément avec les musiciens.
Et en même temps, il y a un morceau sur cet album qui s'appelle Même à distance, on est proche, que tu produis intégralement, qui est aussi un ovni, c'est-à-dire que c'est de la plug, mélancolique. Pareil, tu vois, il y a encore ce truc où là, tu vois, en étant autonome, tu arrives à produire aussi des choses qui sont singulières, quoi.
Mais ouais, mais parce qu'il faut savoir que moi, je suis vraiment passionné de musique, ça on l'a déjà dit, mais j'écoute tout, en fait, tu vois. Enfin, je m'intéresse à tout, tu vois. Je suis un vrai geek de Spotify, de tout ce qui sort, tu vois. Je consomme, je m'arrête pas. Et il y a plein de trucs que je kiffe, du coup, tu vois. Et donc, moi, quand on la plug, et surtout, je suis connecté, genre, le moindre petit truc qui arrive et tout, je le sais avant tout, pas avant tout le monde, mais comme les beatmakers sont toujours un peu en avance, tu vois, ben voilà, ça fait partie de mon truc aussi, tu vois. Et la plug, même si ça existait déjà depuis un petit moment, j'en faisais déjà depuis un petit moment, mais je ne les faisais même pas écouter à Zam. Parce que, d'ailleurs, j'avais placé pour Ruki, tu vois.
Tout à fait, JMKS. Ouais.
Pour JMKS, ouais, tout ça. J'étais un peu dans ce truc-là. Et je ne sais pas, on était en séminaire et tout. Et je lui ai dit, je te fais écouter un peu de la plug. Et il a écouté, il a trop kiffé. J'en ai fait écouter 2-3, mais il y en a une où il a bloqué. Il m'a dit, viens, on fait le morceau et tout. Je pensais qu'il voulait rigoler, tu vois. Machin. Et en fait, non, on a fait le morceau. Et il y a même ma voix dans le morceau.
Ok.
Je sais pas si t'as capté, mais il y a ma voix dans le morceau.
Ok, je le réécouterai avec attention.
Dedans, il dit, je suis avec Tug Dance, c'est la danse des voyous. D'ailleurs, c'est d'où là que vient mon tag. Bon, je l'ai fait moi-même et je lui ai dit, tu devrais le poser comme ça et tout. Il a dit, non, c'est bon, on va garder ta voix. Voilà. L'anecdote, c'est ça, pas besoin de la faire longue.
Peut boucher ses trous. J'aimerais accéder à ton cœur comme un médecin, mademoiselle, le voulez-vous. Sous la lune, trinque avec des loups. On a tous le cœur bulletproof. J'aimerais t'emmener visiter le monde. Le problème c'est que j'ai pas un sou en poche. T'es venu et t'as légué ma vie. Moi qui ai perdu des proches. Même à distance on est proche. Quand on est proche on fait qu'un, c'est important. Tu partages avec moi des moments de galère avant un festin.
Et là en plus j'ai pris un sample. On n'a pas parlé du R&B. Ça c'est pas normal.
Alors parlons-en.
C'est un truc.
C'est vrai que dès le début de cette émission tu m'as dit je me prends le rap et le R&B.
Ouais. Moi, je suis totalement fan de R&B. Ma vraie musique, c'est l'R&B.
Et d'ailleurs, je me permets un truc. Sur l'album Rime Essentielle d'IAM, t'as un morceau qui s'appelle Oublie ce qu'on t'a dit.
Oui.
Où il y a un espèce de son, on dirait Pony de Gene Wine.
Ah oui. Eh oui.
Voilà.
Bah oui, forcément.
Bah voilà.
Bah ouais, 95, j'écoutais Timbaland, Gene Wine.
Bah voilà. Donc c'est pour ça que là, tu parles de R&B.
Il y a la voix qui fait.
Ouais, c'est ça, voilà.
Bien sûr. Bon, voilà. Toi, t'es vraiment. Putain, trop chaud.
Ouais, mais mec, Pony, c'est.
Eh oui, bien sûr.
C'est immortel, ce truc-là.
C'est
voilà.
C'est clair.
Voilà.
C'est
donc quand j'ai entendu son, je fais putain, merde, c'est la même sonorité.
Ah ouais, totalement. Voilà. Je l'avais trouvé dans Nexus.
Oui, parce que je crois que depuis, ils ont réussi à le reproduire pour que ce soit disponible sur des VST, etc.
Ouais.
Et donc, oui, donc. Tu dis on digresse un peu. Tu voulais qu'on revienne au R&B parce que on parlait de la plug mélancolique justement.
Voilà, et j'ai samplé Next. Je sais pas si tu connais Next.
Bien sûr, grand groupe d'R&B aussi, ouais.
Merci Connaît, tu me fais plaisir.
Bah ouais.
Et ouais, parce que j'ai vraiment une grosse culture de R&B. Mm-hmm. Et c'est vrai que vu que j'en fais pas et que j'en parle pas vraiment et tout, là j'ai envie d'en parler aujourd'hui.
Ouais.
Que je sais pas s'il y a des gens qui écoutent, j'en sais rien. Mon rêve, c'est de faire du R&B.
Ok.
Voilà, j'en fais un petit peu, je fais quelques profs de temps en temps, mais autour de moi, j'ai pas de vrai chanteur R&B. Donc, ce sera pas grand-chose, tu vois. Donc, je me mets pas à fond, j'ai d'autres trucs à faire en plus. Donc,
ouais, t'as déjà plein de casseroles sur le feu, comme on dit.
Exactement.
Bah, écoute, le message est passé.
Mais à terme, moi, je veux produire, je sais pas, un gros chanteur de R&B, la liste aussi, je peux te la faire de tout ce que j'écoute.
Monsieur Nov, est-ce que tu voudrais
en
pas
France
produire pour une
en France, ça serait bien, mais lui, il fait ses prods, il a pas besoin.
C'est vrai.
Il est déjà très chaud dans ses prods, donc il a pas besoin de moi, tu vois.
Tout à fait.
Mais après, oui, pourquoi pas le rencontrer un jour, et rien que juste de discuter de R&B, ça serait magnifique, parce que les gens vraiment, vraiment connaisseurs en France, de R&B Kenry, je parle, ils sont pas forcément de R&B. Même sur le R&B français, il y a du bon maintenant. Moi, surtout, le R&B Kenry, il y a pas énormément de gens qui ont la même passion que moi. Il y en a qui survolent un peu, mais moi, c'est deep, quoi.
Ok.
Il y a Driver,
il y a Hubert, son collègue Hubert.
Oh, Hubert. Alors lui, toutes ses vidéos, je les connais toutes.
Salutations Hubert.
Salutations Hubert. Lui, je ne le connais pas, Hubert, mais par contre, Driver, ouais. Driver, c'est le sang. Ouais.
Ouais, c'est clair.
Ouais, ouais.
Salutations à mes deux anciens collègues. Parce qu'on a fait des choses ensemble.
Ah, ben je sais très bien.
Voilà. Tu disais que tu avais envie de faire plein de choses et il y a un autre jeune artiste avec lequel tu développes encore d'autres choses dans ta palette de sons, c'est Stony Stone.
Eh ouais.
Avec lequel vous faites des choses qui tirent vers la two-step, vers la musique de club anglaise.
Ouais.
Comment tu rencontres Stony?
Bastoni, il gravitait autour de Zamdane, en fait. Tu vois, c'est un peu l'équipe, tu sais, Marseille, voilà, on est un peu, pas tous potes, mais ça traîne, on se retrouve sur le Vieux-Port, on discute, ça boit des verres, machin, des fois dans des bars, on se retrouve. Ouais. Et il gravitait autour, et il travaillait avec des mecs, des beatmakers que je connais, et tout ça. Donc j'entendais un petit peu, mais bon, j'étais pas trop intéressé. J'étais dans mes trucs, j'étais avec Soso et avec Zamdane, et je voulais pas trop m'éparpiller, parce qu'ils me prenaient vraiment beaucoup de temps, les deux, tu vois. Genre la journée, je faisais Soso, le soir, je faisais Zamdane, pratiquement
tous
les jours.
Donc déjà, ça prend du temps.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, je savais qu'il faisait des trucs, mais voilà, j'écoutais pas vraiment. Et un jour, je sais pas, il a fait un son que j'ai adoré. Et il a fait un son two-step. C'était le step 1.
Ouais, le premier, quoi.
Ouais, c'est ça. Il a fait un son two-step. Je dis, attends, comment ça? C'était le poteau, tu vois. J'écoutais pas vraiment sa musique, mais c'était le poteau. Et il a fait le step 1. Donc, j'écoute, il fait la two-step. Je commence à moi, je faisais de la house. J'ai sorti des tracks two-step, tu vois. J'en ai fait, mais moi, avant même la two-step de. Même avant Kekra, tu vois. Quand Kekra, il était arrivé à la two-step, je dis, non, c'est pas possible. Un Français qui rappe sur de la two-step, j'avais pété un câble. Moi, j'en faisais, tu vois. Mais j'ai jamais pensé qu'un rappeur pouvait rapper sur de la two-step. J'avais trouvé ça incroyable, tu vois. D'ailleurs, Kekra, depuis, je l'admire, tu vois. J'ai eu la chance de le rencontrer en plus, bref. Et. Du coup, il a fait un son en two-step. Je me suis dit, attends, mais moi je fais la two-step et tout. C'est le frérot de Zam et tout. En plus, je l'aime bien et tout. Je l'appelle, je dis, vas-y, viens à la maison, fais du son. Et voilà. Et ben,
à partir de là.
Il a vu que la two-step, c'est moi. Voilà. c'est à moi qu'il faut.
C'est ton précaré.
Ouais, voilà, c'est ça. Ben, j'ai fait 10 ans de house, tu vois. Bien sûr. Je fais de la two-step. Je fais aussi du rap. Je connais les codes du rap. Je connais les codes de la two-step. Je mélange les deux. Avec Stony à côté de moi, qui est très, très facile à vivre, très gentil, très. Très bienveillant, très talentueux aussi, tu vois, il écrit rapidement et tout, c'est spontané, ça va vite, c'est magnifique. Avec Stony, c'est la régalade.
Même question que j'ai posée sur les affamés de Zamdane, ce serait quel step de Stony ton préféré, sur les intentions que vous avez voulu développer? Tu peux en citer deux, moi ça
va. Ouais, deux, parce qu'il y a Étoile, c'est le step 5.
Bah ouais, je me le suis noté.
Voilà, parce que c'est le préféré un peu de tout le monde, en vrai, parce que c'est celui-là qui l'a fait vraiment connaître, on va dire.
La journée, je suis pas dans mon élément, je suis parano, j'ai l'impression qu'on me dévisage. Des salopes et des putes qui se disaient potes, j'en ai vu défiler comme le paysage. Là, je suis en mission, ils ont pas compris encore que j'ai la vision. On n'est pas comme le Red Massy, on l'a commencé, bien sûr que nous le finissons.
Et après le step 10.
Ben ouais.
Parce que Mystère et Suspense, parce que FF, parce qu'il y a l'anecdote aussi. Voilà. J'ai demandé à Sad, j'ai appelé Sad, est-ce qu'on peut faire ça? J'ai parlé à Pone aussi. Parce que Pone, faut savoir aussi, on l'a pas dit, mais c'était mon manager aussi pendant 2 ans.
D'accord.
Il y a plein de trucs que j'oublie pas.
C'est au moment où il était dans le milieu de la nuit marseillaise?
Oui, okay. Totalement.
Donc alors, qu'on resitue Pone, producteur de la FF, pour les plus jeunes qui nous écoutent, grand groupe de rap marseillais, tout à l'heure tu parlais de Sat, et donc producteur, beatmaker, et qui a eu après 1000 vies une fois que la FF s'était terminée, et à un moment donné, il a été dans le milieu, il en parle très bien dans son bouquin qu'il a sorti cette année, que je vous recommande fortement.
Incroyable livre.
Incroyable livre. Non, voyez, incroyable. De toute façon, c'est des leçons de vie que donne Pone tout au long de ce livre, puisque maintenant il a la maladie de Charcot, donc la SLA, donc son cerveau fonctionne très bien.
Mais trop bien.
Mieux que jamais, mais genre.
Il fait les mêmes blagues que d'habitude. Exactement. Et tout. Il est aussi. Non, j'allais dire quoi. Enfin,
je crois que c'est
marrant, quoi.
Ouais, il est marrant.
Tu vois ce que je veux
dire? Il a beaucoup d'humour, bref.
Parce qu'il est très loin d'être quoi. C'est un des mecs les plus intelligents que je connais, mais il a ce truc de blague.
Ouais,
tu vois,
c'est un charrieur. Bah, c'est un chambreur.
C'est un charrieur, exactement.
C'est un chambreur. Et bref, justement, à un moment donné, il est dans l'univers de la nuit marseillaise. Il en parle dans le bouquin. Donc, c'est à ce moment-là que tu bosses avec lui, en fait, c'est ça? Ok, d'accord. Ouais. Donc, là, on revient quelques années en arrière. Là, on est au début des années 2010, peut-être.
On avait même fait un groupe, carrément.
Ah ouais.
On avait rien sorti, mais on avait fait un groupe.
Génial. Ok.
Moi et un autre beatmaker.
Okay.
Qui est dans d'autres trucs maintenant, donc je n'ai pas besoin de dire sans blase. Okay. Mais bref, voilà, du coup.
Donc, tu lui as envoyé un petit message pour te dire on a ce morceau Two Step qui reprend le même sample que Mystère et Suspense de la FF.
Et tout le monde m'a donné son accord.
Chambé.
Voilà,
et en plus, Sat est dans le clip aussi.
Et du coup, Sat, carrément, il m'a dit ok, vas-y, faites le morceau, pas de soucis et tout. Mais en plus, si le morceau il est lourd et tout, carrément, je viendrai dans le clip. Putain, magnifique, j'appelle Stony, j'ai gros Sat, il va venir dans le clip et tout. Du coup, on a fait le morceau, il a kiffé. Et dans le clip, il est venu avec Menzo.
Ouais, exact, c'est vrai qu'il y a Menzo aussi.
Il est venu avec Menzo. Et il y avait Dean Burbigo dans le clip aussi, parce que tu vois, mais il a fait le méditer chez moi
mec,
à ce moment-là.
Je vois le clip, je me dis, mais c'est une boucle incroyable ce morceau.
Il y a Rolo aussi qui est là.
Il y a Rolo.
Il y a Zam qui est là.
Je me dis, c'est une boucle incroyable, parce que je sais que c'était qui produisait.
Ouais.
Je lui dis, Dance a commencé avec ces mecs-là.
Ouais.
Et il se retrouve aujourd'hui pour ce jeune artiste qui produit dans
c'est
le
fou,
clip.
C'est fou.
C'est trop cool en fait comme boucle.
Pour cette journée-là, je me rappelle encore comme si c'était hier, genre quand, le jour où on a fait le clip à la plaine comme ça, et la photo où on est tous comme ça, c'est ma photo sur mon Twitter, la grande photo là qui est en haut là. T'sais.
La bannière.
Que, ouais. Voilà la bannière exactement. Parce que pareil, elle a du sens cette photo. Tu vois.
Tu m'étonnes.
Genre à la limite la boucle est bouclée quoi. Ouais. C'est magnifique. J'adore. Et cette journée est incroyable. Le clip il tue. J'adore. Bref, j'adore le morceau. J'adore tout.
Et moi j'aime beaucoup en plus comment ça fait. Un pont, tu vois, nous on vient de cette culture-là justement du rap américain au français des années 90 où il y a le sampling, il y a ce truc de cultiver un patrimoine.
Ouais.
Moi j'aime trop comment ce morceau justement d'un jeune artiste qui fait de la two-step, qui est marseillais et qui ressemble, tu vois, ou en tout cas qui refait un clin d'œil à un morceau de rap, un grand morceau de rap marseillais, tu vois, comme ça, mmh. Je trouve ça trop cool en fait.
En fait, si tu veux l'anecdote, c'est qu'un jour je suis allé chez lui, je sais plus quand, bref, et il me dit, non, c'est moi, je lui dis, parce qu'on devait faire du son, tu vois. Je dis, gros, cette fois, j'ai pas envie de faire une compo ou de prendre une mélo, des collabs, machin et tout. Viens, on sample. Viens, on sample. Dis-moi le morceau que t'as toujours voulu écrire dessus. Mmh. Ou peut-être les morceaux même que t'écrivais dessus ouais. À l'époque et tout. Dis-moi un morceau que je peux sampler, qui te transcende, que vraiment, là, c'est le meilleur sample de ta vie. Il a même pas attendu une seconde. Il m'a dit Mystery Suspense FF.
Mais ouais.
Je dis, let's go. Tac, deux secondes après, tac, je télécharge, là, je fais la prod, ça dure 20 minutes. C'était bon, c'était réglé.
Mortel.
Et voilà, mortel.
C'est mortel.
C'était
est-ce
incroyable.
Est-ce que je pourrais être libre? Est-ce que je pourrais être libre? Est-ce que je pourrais être moi-même? Je ne vois aucun psy, je raconte ma vie sur une prod et ce soir c'est toi que j'aime. C'est pour Antoine, mais dis-moi, Ahmed. Les seuls qui ont répondu à mes lettres.
Il y a un morceau, moi que j'aime beaucoup justement sur votre série des steps, parce que c'est peut-être celui qui est pas step, enfin qui est anglais mais sur un autre genre. C'est le Step 6 Helium, où c'est carrément ouais, de la drum and bass.
La
tu
drum
vois.
And bass, exactement.
Et ça, c'est pareil, je
on
me
a
dis.
Fait un petit pied de nez.
C'est très rare aujourd'hui, à part peut-être quelqu'un comme Yanis aussi, tu vois, qui va là-dessus. Mm-hmm. C'est rare d'entendre ça. Et je me dis, les mecs poussent tellement le délire anglais loin qu'ils vont aussi sur ce genre musical.
C'est exactement ce qu'on s'est dit. C'était ouais. La discussion qu'on avait eue. Et moi, je commençais un peu. La drum and bass aussi, pareil, j'en avais fait. Mm-hmm. Et tout, tu connais, je touche à tout. Mm-hmm. Et je m'étais dit, putain, quand même, voilà, tu vois, t'as une vibe UK, tout step, machin. Il y a quoi en Angleterre? Il y a la drum and bass aussi, c'est un big mouvement, tu vois. Viens, on essaie de faire un truc Stony Stone de drum, drum and bass.
Drum and bass.
Et lui, tu connais, toujours enjoué. Ouais, bien sûr, vas-y, let's go, viens essayer et tout. Machin. J'ai fait une prod en drum and bass, pareil, tu vois, vite fait, tac, il kiffe et on a fait le morceau. Hein. Mais après, dans les commentaires, il y en a qui nous ont dit... c'est pas une two-step, parce que c'était la série Step, tu vois. Et en vrai, ils avaient raison. Mais voilà.
C'est tellement proche aussi.
Voilà, il y a une baby UK, il y a un truc, on s'est laissé aller, on a eu envie de...
Moi j'ai sûrement des problèmes que t'as pas. Mais je suis dans tous mes états, je fais tout pour avoir ce que j'ai pas. Fais très attention si tu parles mal de la bouche. Ça viendra te gifler en Canada Goose.
Là donc on s'est arrêté en 2023, c'était ta discographie la plus récente. Pour les mois, les années qui viennent, c'est quoi un peu tes envies? Est-ce que tu as envie de continuer à développer les univers musicaux de Stony et de Zamdan à travers des longs formats? Est-ce que tu as envie de produire de nouveaux artistes, continuer à placer pour les artistes historiques de Marseille avec dont tu es proche? C'est quoi voilà, tes envies et tes projets pour les prochains mois, prochaines années?
Bah, déjà, pour l'instant, continuer. Mm-hmm. Continuer tout simplement. Là, par exemple, là, avec Zamdan, il y a Solsad qui sort. Ça, le nom est sorti, donc j'ai le droit de le dire. Voilà, j'ai presque tout fait, tu vois. Donc, j'ai beaucoup de son dans cet album. Il y a ça qui va sortir, j'ai pas le droit de dire la date. Donc, déjà, voilà, il y a ça. Il y a Stony aussi, on doit. Et ouais, mais j'ai pas le droit de le dire, ça non plus. C'est dur de dire les.
Bah alors, vous bossez.
Voilà, on bosse.
Bon,
on bosse.
A priori, sur Zamdan, on a un peu des indications sur des choses qui vont sortir.
Voilà.
Et Stony ça
aussi,
bosse.
Soso, voilà. Il m'a appelé un truc, on va partir en séminaire au mois de janvier. Voilà, après, maintenant, je bosse, j'ai signé chez Warner.
Ok.
Big up à Joris.
Gros big up à Joris.
Voilà, sur Warner Chappell, ça se passe super bien. Et du coup, il y a Joris qui me place un peu sur des sessions, tu vois. J'ai fait Impliqué, j'ai plusieurs blagues. J'ai fait Davinor, tu vois. J'ai fait des gens qui sont un peu affiliés, on va dire, tu vois. J'ai fait d'autres trucs aussi, mais pareil, j'ai pas le droit de dire. Donc,
ça reste top secret pour le moment.
C'est un peu frustrant, mais voilà. J'aurais aimé te dire.
On saura quand ça sortira. On saura de quoi tu parlais, ce que tu évoquais dans cette émission. Voilà.
Voilà, donc dans l'avenir, on va développer ça, développer toute cette relation avec Joris et donc faire des sons avec des artistes parisiens que d'habitude, je n'avais pas l'occasion de travailler avec parce que je suis à Marseille.
Bien sûr.
Même si, bon, Marseille, Paris, ça va vite, mais je n'étais pas là, tu vois, je n'étais pas sur place. Et toujours rester focus sur mes gars. Vraiment, rester focus sur mes gars parce que ça me permet de garder le juice, tu vois. Si j'en vois trop à droite, à gauche et tout, tu vois, j'en vois les pépites, j'en vois à droite. Moi, je préfère, si j'ai une pépite, je préfère la faire écouter à Zamdan en premier, tu vois. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Toutes mes prods, mes meilleures prods, j'ai fait écouter à Zamdan en premier, tu vois. Et Soso aussi, pareil, tu vois. Stony, c'est différent parce que c'est un style vraiment à part entière, tu vois. Bon, après, il y a Dean aussi, à qui j'envoie régulièrement, bref. Mais voilà, j'ai mon petit cercle.
Ouais, tu préfères avoir des artistes proches avec voilà. qui il y a une complicité, une confiance.
Ouais, il y a une amitié même. Tu vois, une amitié des gens avec qui j'ai vécu énormément de moments, tu vois. Et j'aime bien travailler comme ça, tu vois. Je suis en studio, on est bien, on rigole, on est tranquille, tu vois. Il n'y a pas de stress et tout, tu vois. Et j'aime bien. À la Marseillaise, n'oublie pas que je suis Marseillais, n'oublie
c'est
pas.
Vrai, c'est
oui, c'est pas pareil.
C'est pas la même ambiance.
On aime le truc un peu chill, tu vois. On fait du son tranquille et tout, tu vois.
Dernière question à te poser, que je pose à tous les beatmakers qui passent dans cette émission, c'est pas la plus facile. Si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ta musique en une seule production, tu as une seule production de ton répertoire à lui faire écouter. Ouais. Qu'ils comprennent ce que tu fais.
C'est dur ça.
Ouais.
C'est dur parce que moi j'ai deux styles, tu vois.
Bien sûr.
Enfin, deux gros trucs différents, tu vois. Donc est-ce que je dois parler de la house ou est-ce que je dois parler du rap ?
Plutôt dans le rap.
Et ouais.
Voilà.
Moi je pense aussi. Hein.
Et dans le rap, voilà. S'il y a une production en particulier, un morceau que tu as produit.
C'est dur.
T'as le droit de changer d'avis demain. Là, c'est à l'instant T.
Ouais, il y a un morceau que j'ai fait avec Zamdan aussi que j'adore. Il s'appelle Poussière.
Ok, ouais.
Et celui-là, quand on l'a fait en concert aussi, bah, c'était un truc de fou. Quand on l'a fait à La Cigale, c'était légendaire. Donc ouais, peut-être Poussière, même si je sais faire plein d'autres trucs qui n'ont rien à voir, mais voilà, c'est le premier qui me vient en tête là.
Quel aubaine, demain je peux partir comme Kurt Cobain. Elle dit qu'elle m'aime, ok. Je sais même pas si elle s'aime, elle m'aime. Mes amis sont tous en mer, mes amis sont tous sous terre. Tant que je suis sur la surface, je dois les époustoufler.
Et ben on se quitte justement avec cet extrait de Poussière. Merci beaucoup Dance d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir écouté BPM, le podcast de conversation avec les producteurs de Bouscapé. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les précédents épisodes et les prochains. Portez-vous bien et à bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.